bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, tu rigoles déjà?
Je me marre déjà, oui. Bonjour à tous, bonjour Yannick Canafi, ça va? Tu te mets à l'aise, hein, t'es bien là?
Pourquoi tu rigoles déjà? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai un plaid, mais qui ne se voit pas à l'écran, pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou Spotify.
Petite gourde là, on est bien.
Qui ne se voit pas à l'écran non plus, elle est cachée. Donc là, regarde, l'illusion est totale.
C'est-à-dire, on voit que t'es à l'aise dans l'émission, ouais, c'est que voilà, c'était bien, tu te sens bien.
Mais voilà, si à un moment j'ai un peu chaud, peut-être que vous découvrirez la couleur de ce plaid, ma foi, très très soyeux.
Burgundy,
très
je m'en dis en anglais.
Bon, ça va, parce que on a une émission entrée plat dessert. On va commencer doucement avec un retour sur le State of Play d'hier soir pour nous. Donc prise de parole de Sony avec une belle conférence. On a pas mal de choses à dire et de choses à voir.
Carrément.
Le plat principal, un petit Persona 3 là, un petit peu dense là. On va parler de Persona 3 Reload qui sort aujourd'hui. Et on finit avec un dessert sucré, une petite discussion autour de la Switch. C'est ça, la Switch 2.
Switch 2, voilà. Bah écoute, j'ai envie de dire peut-être le dernier point avant qu'elle arrive. Hein, donc ça sera l'occasion de voir qu'est-ce qu'on peut en espérer, mais ce sera pas wishlist, ces manières d'un peu réfléchir, mais ça sera une chronique quand même plus relaxe. On est pas là pour s'emmerder,
on finit en douceur avec un petit café, tout ça.
Allez bien.
On espère que le menu vous plaît. On va commencer tout de suite avec la chronique retour sur l'émission d'hier, le State of Play de Sony, avec une prise de parole de Herman Hulst, donc voilà, le responsable des studios internes de Sony, qui a pris
ton chouchou.
Mon chouchou, deuxième personne la plus classe du jeu vidéo après Sam Lake. C'est quand même pas rien.
C'est vrai. Mais symboliquement, c'est vrai que ça a du sens, hein, parce qu'on s'en est dans une ère un peu d'incertitude avec Jim Ryan qui est à la fois in and out, comme on dit. Il est dans sa période un peu de transition, il s'apprête à quitter la boîte. Il n'y a pas encore de remplaçant désigné. Mais Maître Herman Hulst, un mec qui est plutôt apprécié, qui représente bien et qui est surtout à la tête des PlayStation Studios, donc le mec qui produit les jeux en interne de Sony. Je trouve que c'était un message quand même. C'était ok, vas-y, c'est bon. On verra après si on peut en tirer des conclusions, mais cette ère Ryan, est-ce que ça sera pas l'ère de la pantoufle? Peut-être qu'on en dira après.
Du plaid coup, même. L'ère du plaid.
Mais bon, c'était un message, en tout cas.
En tout cas, il y avait des dates à poser, un planning à un peu clarifier, parce que c'est vrai que pour ce qui était de Sony, on savait pas trop ce qu'il en était pour 2024. Alors, c'est pas beaucoup plus clair pour les studios first party. Il va y avoir une annonce. Après, il y a une autre solution. Quand on n'a pas de jeu, c'est payer des exclusivités.
Voilà.
Et même si Sony n'a pas le portefeuille le plus grand, là, ils ont un petit peu cadencé l'année, en tout cas le premier semestre, de façon assez équilibrée. Et on va le voir. Et on vous a classé les jeux de façon chronologique de leur sortie. Et on terminera par un second segment sur les jeux qui sont non datés ou pour lesquels on ne connaît que l'année 2024 ou 2025. On commence donc avec Silent Hill The Short Message, donc un free-to-play qui est sorti et disponible.
Ouais, alors surprise et non surprise en même temps, parce qu'effectivement on l'attendait pas, on attendait Silent Hill 2 et là arrive ce jeu-là. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que le jeu, son titre et même des artworks et tout avaient leaké il y a plus d'un an et tout ça. Donc on s'est dit, bon, finalement il n'est pas parti de la grappe de projet annoncé, est-ce qu'il a été annulé ou pas? Et finalement, il se le gardait sous le coude pour un Shadow Drop. Alors j'avoue, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, ni même d'écouter les avis de quelqu'un qui l'aurait essayé. Mais j'ai envie de dire, maintenant, est-ce que je suis pas dédié dans les Red Alert à chroniquer les Silent Hill, donc
foutu.
On en parlera pas la semaine prochaine.
Ah, on a envie de savoir, hein, qu'est-ce qu'il en est de ce
film. Espérons que ce soit bien, parce que j'ai déjà souffert une fois, donc.
Est-ce que tu nous ferais pas un retour sur le précédent, savoir où ils en sont?
J'ai voulu voir hier, ils m'ont demandé mon mot de passe. J'ai dit, vas-y, nique.
Tant pis, on n'aura pas de ça. On va passer rapidement sur Helldivers 2, donc qui sort le 8 février. Donc c'est juste pour dire que là, c'est un jeu, un game as a service, FPS. Donc voilà. TPS, pardon, tu as raison. Juste pour la mise en place un petit peu de la stratégie de Sony, avec voilà un petit jeu par mois, un petit game as a service. On enchaîne avec le même jour, le 8 février aussi, il y a le PlayStation VR 2, hein, voilà, qui s'arme de Legendary Tales, j'ai appris que c'était une saga qui avait déjà trois jeux, et là, c'est un versant VR.
Okay. Ça fait jeu VR d'il y a 5 ans déjà, on va dire. Mais
ouais. C'est pas faux. Mais on va dire que voilà, il y a un petit peu de PlayStation VR.
C'était voilà la caution. Hein, il y avait deux jeux VR, donc petite caution. L'autre avait l'air plus intéressant quand même.
Ouais, on reste toujours début février avec From Stars, donc le Splatoon de Square Enix qui se retrouve Day One sur le PlayStation Plus. Donc c'est pas une exclusivité, mais il y a une petite primeur de gratuité, en tout cas pour ceux qui payent le PlayStation Plus. Ben voilà, toujours pareil, une stratégie d'essayer de faire venir en premier lieu les gens sur la plateforme par un biais ou par un autre.
Ouais, puis dans ce genre de projet un peu casse-gueule, les éditeurs ont tendance souvent, pour le coup, à suivre le marché, aller sur des services de téléchargement gratos pour ramener du monde au moins, mais bon, Nul doute que dans 6 mois, il sera kill ce jeu, je pense qu'on est tous conscients.
Voilà, déjà, le fossoyeur. C'est dur. On verra bien, des fois. Et les belles
surprises.
Les belles surprises. On sait jamais. Alors, surprise, il n'y a pas eu avec Final Fantasy VII Rebirth, qu'on attendait tous avec un shadow drop de la démo et un trailer, parce que on reste le 6 février, sur la date posée pour From Stars, il va y avoir le 6 février un State of Play dédié à Final Fantasy VII Rebirth.
Ouais.
C'est pour ça qu'il y a rien eu rien hier.
Bah écoute, heureusement qu'on n'a pas parié que la démo sortirait hier soir, parce que j'aurais perdu. Mais pour le coup, voilà, ça montre déjà qu'ils avaient beaucoup de matière pour ce State of Play, et ça montre aussi l'importance qu'ils accordent à FF7 avec une émission dédiée. Et là, voilà, une émission dédiée, je me dis, finalement, je ne veux pas la mater, parce que là, ça va être, on va en apprendre tellement que...
Ouais, je suis comme toi, là, je pense que je vais essayer de l'esquiver, même si ça va être très très compliqué. Il va falloir masquer tous les mots sur tous les réseaux sociaux, commence à falloir éviter les balles maintenant.
Mais nul doute qu'on aura a priori la démo, cette fois, je ne parie pas, du coup, mais...
Non, tu paries pas, mais ça risque d'arriver. On passe au mois de mars, 22 mars, avec Rise of the Ronin, du jeu d'un Team Ninja. Espèce d'Assassin's Creed samouraï, mais un petit peu plus, avec l'air un petit peu plus moderne que ce qu'on voit d'habitude.
Ouais, bon, ça a quand même l'air sympatoche, liberté de mouvement, grappin, l'aile volante, t'atterris sur ton cheval, les combats, il y a l'air d'avoir plusieurs postures et tout, donc sans rentrer dans le Sekiro, ça a quand même l'air d'être un petit peu poussé. Bah, Team Ninja, de toute façon, c'est devenu des faiseurs de bons jeux de série B, on va dire, quelque part. Et celui-là a l'air d'être le plus ambitieux parmi eux, donc, pourquoi pas, le contexte historique est cool, hein. C'est vrai que, nous, on a lu Kenshin, le même manga quand on était jeunes, donc cette ère de transition entre un peu l'époque moderne et l'époque samouraï, la fin d'une ère, ça s'annonce intéressant avec ces bâtiments qui ont certains styles occidentaux, alors qu'à côté, t'as les côtés encore très traditionnels. Je pense pas que je le ferai, mais c'est un jeu qui a l'air sympatoche.
Ouais, moi non plus. J'aimerais bien.
Les deux. Ouais, il est bien, bon, personne.
Non, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir le temps ou lui octroyer le temps pour le faire, mais je pense pas. Parce qu'il y a plein de choses le 22 mars. Alors, un second jeu que je vais pas faire moi, c'est Dragon's Dogma 2, qui a été représenté hier, mais qui se place le même jour, le 22 mars, ça fait beaucoup.
Comment ça se fait qu'il y a deux jeux qui ont l'air cool, qui sortent le même jour, et qu'aucun de nous deux ne soit intéressé?
Je sais pas. On n'est pas dans la trend, ça nous intéresse pas. En tout cas, Ken vous en parlera dans un Sur Strike ou chez Merugazu.
Parce que l'année, je pense. Dans le top de fin d'année aussi.
Oui, je pense qu'il sera présent dans le top de fin d'année. On passe, hein, parce qu'on n'est pas sur un jeu exclusif avec Dragon's Dogma. On va passer à une exclusivité cette fois, c'est Stellar Blade, du studio Shift Up, un studio coréen, qui sort cette fois le mois suivant, 26 avril. Alors, comment on le désignerait de façon cliché? C'est un Bayonetta Nier Automata RPG.
Bayonetta.
Donc c'est vrai que le versant Bayo, il est assez flagrant pour le design de l'héroïne, mais il a l'air assez riche en fait comme jeu.
Ouais, alors déjà c'est le premier trailer où on dirait vraiment un jeu vidéo. C'est vrai que jusqu'à maintenant ça jouait plutôt sur le côté un peu lubrique de la plastique de l'héroïne. Ça a l'air d'être beaucoup plus action RPG que pure beat'em up comme on l'imaginait au départ. Ça a l'air sympatoche, même si effectivement le monde dévasté, les immeubles en ruine, les distributeurs éclatés, c'est très 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 Nier Automata dans le setup quoi. Mais bon, pourquoi pas, ça avait l'air c'est un trailer qui m'a donné plus envie.
Est-ce que tu vas le faire?
Je pense pas. Quoi qu'il en soit, je trouve ça pas con avec Sony de s'acoquiner avec des coréens, des éditeurs, enfin des studios coréens. On se doute que ce sera le futur, hein, la Corée et la Chine. Et voilà, si tu les prends sous ton aile et que tu fais commencer avec eux à ce moment-là, je trouve que c'est un move intelligent.
Ouais. Et voilà pour ce segment en tout cas des jeux datés, et on va passer à un titre que j'espère que tu vas faire, c'est Sonic Cross Shadows Generations, donc un remaster de Sonic Génération, et avec un petit DLC Shadow pour se mettre bien avant le film.
Voilà. ouais, bah écoute, on en parlait autour du café, hein. C'est vrai que Ken n'était pas forcément très très jouasse, mais ils ont sorti un gros Sonic l'an dernier, donc ils pouvaient pas en sortir un autre cette année, mais parce qu'il y a un film qui sort et le film devrait introduire Shadow au cinéma, il fallait qu'il y ait quelque chose, donc voilà, il ressort des tuyaux, le Sonic Generation, le jeu anniversaire d'il y a une quinzaine d'années.
Ouais, 13 ans, il disait.
En rajoutant des niveaux Shadow comme une sorte de DLC. Bon, on l'a dit, c'est ça pour faire découvrir le jeu à une nouvelle vague de gens, peut-être, des spectateurs qui regardent Sonic Prime sur Netflix ou qui vont voir le film au ciné.
Exactement, quoi. Et qui découvriront le personnage de Shadow et qui
vont
dire «
Oh, papa,
je veux y jouer !» Donc ouais, Sonic Prime, là, saison 3, donc ils continuent à avoir de l'actu tout le temps en Sonic, un jeu par an Sonic, ils tiennent le rythme. Alors c'est évidemment pas évident de sortir tout le temps de la nouveauté.
Mais il a jamais été aussi présent, hein, Sonic, finalement.
Sonic. Allez, on passe maintenant au vraiment pas daté, parce que là c'était pour l'automne.
Premier semestre bien rempli. Hein,
voilà, on a le premier semestre.
Bien dense. Voilà, entre remaster, free to play, remake, nouveauté, jeu, seconde partie. Bah tu te construis un petit semestre.
Il y a de tout pour tout le monde. pour tous les joueurs, et en fait ça fait passer la disquette de où sont les jeux first party. Ils sont pas là, mais c'est pas grave parce qu'il y a des jeux exclusifs, et si vous voulez jouer à ces titres, ben ça sera sur PlayStation 5. Alors c'est pas évidemment tous ceux qu'on a nommés, mais on vous les a précisés quand c'était des exclus.
Ouais.
Voilà, c'est bien cadencé, ça me fait penser aux premières années de la Switch où c'était un jeu un mois, c'était bien ça.
C'est vrai.
Et bon, c'était en plus en exclu. On va passer maintenant aux dates un petit peu plus incertaines, hein, 2024 ou 2025, avec Until Dawn Remaster qui sort en 2024. Est-ce que ça t'étonne? Est-ce que tu trouves ça cool?
Bah, ça va dans le sens qu'on disait, qu'on parlait de Last of Us Remaster, de voir la politique de Sony de mettre ses jeux, quels qu'ils soient, finalement, à disponibilité de tout le monde, quoi. Donc, même des jeux PS4 qui ont, je crois qu'il a 10 piges, hein, déjà.
Ça commence à faire,
ouais. Bah, tu le mets aujourd'hui. En plus, il prépare un film dessus, donc on comprend le move. Après, bon, moi, je trouve que c'est pas un jeu incroyable, voilà. Hein. C'est le premier un peu modèle du proto de ce que deviendra les jeux du studio.
Supermassive.
Les jeux du studio.
Ouais. Alors moi, je crois que c'est pas trop, enfin, un avis commun. Moi, je l'ai trouvé éclaté le jeu. C'est vrai que.
Bon, j'irais pas jusqu'à dire éclaté, mais t'as ce côté. De toute façon, c'est un.
C'est un slasher.
Oui, voilà, le slasher avec la bande d'adolescents qui se réunissent et tout.
Ouais, mais en tout cas, quand je l'avais fait à l'époque, j'étais pas dans de bonnes dispositions et j'avais pas du tout accroché. Mais il a quand même plutôt bonne réputation.
Il avait surpris agréablement à l'époque. Ouais. Mais je parie que toi, je suis pas le plus grand fan du jeu, mais bon, c'est sympathique.
Et tu l'as dit rapidement, il y a un film qui va être.
Là, on se demande l'intérêt, game, parce que pour le coup, c'est juste faire un slasher comme on en a eu 150.
On verra bien. Alors ça, c'est pas un jeu PlayStation, mais un PlayStation VR, encore second jeu. Donc deux jeux PlayStation VR, ça fait quand même plaisir pour ceux qui ont la bécane. Donc c'est Metro Awakening, voilà, adaptation de la licence pour la VR.
Ouais, bah écoute, Metro, c'est une licence qui a su proposer des jeux de qualité, des FPS immersifs et tout. Là, la VR, vraiment, on sent l'influence Half-Life, Alyx, ça. Et ça a l'air plutôt cool. Enfin, ça donne envie, en tout cas. Ça a de la gueule. Espérons que ça a la même tête une fois le casque mis sur la tête. Mais c'est carrément avec ce genre de projet que la VR va pouvoir un peu évangéliser autour d'elle, quoi.
Ouais. Qui donne un petit peu de crédit à ce matériel qui était laissé en jachère. Donc, tant mieux. Pour 600, ceux qui l'ont.
600 bols. 600 bols. Voilà.
Pour ceux qui ont investi, qui se retrouvent avec au moins quelques jeux. Avant de rentrer dans le dur, dernière petite mention de V Rising. Donc, un jeu qui est espèce de Diablo like RPG de vampire. Donc c'est un titre qui est en accès anticipé depuis l'année dernière, déjà, et qui arrive sur PlayStation. J'avoue que ça me branche, moi. Je sais pas, j'aime bien l'ambiance, les Diablo like, j'aime bien.
Ouais, c'est vrai que ça évoque du Diablo, hein.
Voilà, allez, on rentre dans le dur maintenant avec Silent Hill 2, le remake sans date. Voilà, ça c'est déjà
sans date, première surprise. On s'attendait à ce qu'il sorte premier semestre, hein, parce qu'il est quand même annoncé depuis un bail, et si on écoute les déclats des développeurs de Bloober Team, t'as l'impression qu'ils ont fini leur taf presque depuis un moment. Alors il y a débat. Alors déjà, bon, le trailer, évidemment, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un mauvais trailer quand tu veux vendre du Silent Hill 2, un jeu qui est basé sur les personnages, sur l'émotion, sur la mélancolie, sur les musiques. Faire là, voilà, c'est un trailer un peu random qu'ils nous ont fait, qui est pas très réussi. Paradoxalement, moi, je trouve que ça m'a rassuré sur le genre lui-même, que je trouve joli, que je trouve fidèle, que je trouve voilà. Évidemment, il y a un montage de coups de feu et de coups de tuyaux machin, mais bon, c'est un montage, quoi, et on sait que c'est pour des trailers, parce que voilà, pour pas faire peur aux gens, pour montrer que c'est un jeu d'action, alors que, enfin, j'espère que ça ne préjuge pas d'un versant potentiellement plus action. Ça sera compliqué, faudra attendre le produit fini pour jauger, mais bon. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt fidèles et respectueux, mais c'est pas l'avis de tout le monde.
Non. En tout cas, la rédac, Damien, il est pas content, hein. Il s'exprime, il est vocal, et il a raison.
Suivez-le sur Twitter, il y aura certainement un thread aujourd'hui, je pense.
Oui, c'est sûr. Mais, même si on peut trouver que le trailer, il est pas approprié, moi, je trouve que c'est un trailer qui est logique, enfin, pour le grand public, essayer d'un petit peu de les attirer en leur disant, ça va taper des monstres.
Ouais.
Alors, c'est clair que ça va pas du tout dans la philosophie, la vision de ce qu'est la série Silent Hill. Mais c'est un trailer, quoi, donc il faut essayer de dire, c'est dynamique et tout, c'est clair, c'est éclaté.
Espérons, oui, qu'avec la date de sortie qui se rapproche, ils feront des vrais trailers pour vraiment vendre le truc sur ses qualités
sur
et pour donner envie aux gens, parce que c'est un jeu qui mérite, si vous ne l'avez pas fait, qui mérite d'être découvert, quoi.
En tout cas, j'ai super hâte. Moi, il m'a ni rassuré, ni fait peur. Je suis un peu sur ma faim. C'est que j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'avoir plus.
C'était quand même 2024, hein, quoi qu'il en soit, quoi.
Ouais. Donc, non, il y avait,
c'était
en développement.
Hein. Ouais, je crois qu'il y avait pas de date.
Il y avait pas de date. Hein. Moi, j'ai pas noté de date là. Un autre jeu sans date, en développement sur PlayStation 5, c'est Judas de Ken Levin, donc qui a remonté un studio pour faire un BioShock-like. Est-ce que c'est étonnant?
Il dit je quitte Irrational Games, je ferme le studio parce que j'en ai marre de faire des BioShock, des jeux à grande équipe, et pour nous sortir 10 ans après un BioShock. Non, c'est vrai que ça a la gueule d'un BioShock. Enfin, de toute façon, après Levin, hein, il a une façon de d'imaginer ses jeux, des System Shock 2 et tout. Hein, c'était pareil déjà. Oui. Donc ça a grave de la gueule. En tout cas, la DA est ouf, le jeu est trop beau.
Ouais.
Mais faut voir. Moi, j'ai l'impression qu'il nous utilise une mécanique un peu, alors peut-être pas roguelite, mais quelque chose où tu peux rebooter l'univers et ça serait une sorte de jeu que tu referais plusieurs fois. Enfin, j'ai l'impression que ça va plutôt dans cette direction.
Ouais. Damien nous en parlait tout à l'heure. Il y aurait quelque chose autour de la narration par brique, par bloc.
C'est ce que lui aurait déclaré dans les interviews, hein, parce que l'objectif c'était quand même de faire autre chose et d'avoir avec une équipe plus réduite. Je sais pas du coup comment ils étaient au final, mais bon, ça donne envie quand même. J'ai l'impression que le buzz accroche pas des masses sur le jeu, mais
Je sais pas, mais en tout cas, moi, je suis ultra chaud.
Bah, Ken Levin,
c'est monsieur. C'est monsieur Ken Levin, c'est quasiment le chouchou, parce que le chouchou, c'est Coco. Il faut pas déconner, il y en a quand même qu'un, des Coco. Kojima, donc, qui nous a présenté un nouveau trailer de Death Stranding 2. On the beach.
On the beach. Pire titre.
S'appelle
voilà, Death Stranding 2. Je suis dégue.
C'était pour, tout à fait normal et logique.
Pourquoi c'est Salam Alec, mais DS2, Working Title, pour nous sortir Death Stranding 2 on the beach, quoi, derrière.
Parce que Kojima, et c'est pour ça qu'on l'aime. Il nous a monté.
On l'aime quand il nous surprend.
C'est arrivé de nombreuses fois où il monte quelque chose en épingle et à la fin, ça fait un peu mouif et tu dis bon.
Oui. Mais en tout cas, pire titre. Voilà.
Donc voilà, on n'est pas content sur le titre, mais est-ce qu'on est content sur le trailer?
Bah de ouf, là on sent vraiment que voilà, Death Stranding le 1, tu poses un nouveau jeu, nouveau gameplay, un nouvel univers, donc voilà, ça a demandé de la concentration. Maintenant que ça s'est posé, bah mon slash, c'est du coco à par tous les tuyaux. Et c'est ce qu'on aime bien, quoi, son côté qui part dans tous les sens, what the fuck, enfin t'as un espèce de hard rock star qui se bat avec une guitare contre un ninja version robotisée, enfin t'as George Miller modélisé avec un chat un peu chelou sur les épaules, enfin c'est vraiment le Kojima qu'on kiffe, et
avec la petite marionnette là,
la marionnette animée en stop motion, c'est incroyable. Je crois que c'est le visage d'un réalisateur allemand aussi.
Kojima, j'ai vu tourner sur Twitter quelqu'un qui disait qu'il ressemblait à Alan Wake. Je trouve que oui, il ressemble de ouf à Alan Wake.
J'ai aimé Alan Wake
et c'est trop
ça donne envie. Après bon, c'est vrai qu'on a l'air du coup de diriger quand même vers un gameplay qui dans le prolongement contre mes prédictions.
Et oui, parce que même t'as dit nouveau gameplay et moi je trouve que artistiquement il est incroyable ce trailer, comme d'hab c'est génial, mais niveau gameplay, ça rejoint un petit peu la chronique qu'on a réalisée il y a quelques semaines, où on avait dit Death Stranding c'est une anomalie parce que c'était un nouveau gameplay, un nouvel univers, certes, mais là on est sur une suite et il a l'air, même Coco, de respecter les fameux trois tiers, la prise de risque, l'économie d'échelle du fait qu'il a développé toute une post-prod avec les recherches de gameplay, de game design, tout ça il s'en resserre, il va tout améliorer, mais il a pas l'air de révolutionner, en tout cas de ce qu'on a vu.
Ouais c'est vrai en tout cas, mais bon voilà, plus de véhicules, des espaces, des biomes peut-être plus variés. On a l'impression du coup qu'on sort juste des États-Unis pour inspecter un peu l'Amérique au global avec cet éventuel gros vaisseau qui sera peut-être en moyen de se déplacer, qui sera un peu notre base quelque part. Après le scénar et tout, on a vu des bribes et évidemment où c'est que ça va aller, enfin ça excite de ouf quoi de savoir ce qui va se passer, mais là vraiment c'est la créativité régénérée quoi, enfin on s'inquiétait pas pour lui, mais
oui, même si sur le gameplay entre méga guillemets on peut être un peu déçu, créativement c'est ouf et c'est hyper étonnant, et comme d'hab il arrive à nous choper. Il fait 9 minutes hein le trailer, moi j'ai cru que ça durait 30 secondes, j'étais happé le début avec l'espèce de poulpe avec la pointe dégueulasse, ah c'était trop bien.
Mais 2025 quand même, hein, c'est qu'on pouvait s'attendre à 2024, mais
exactement 2025, il faut attendre encore, c'est pas pour tout de suite
parce qu'il est occupé sur plusieurs projets en même temps.
Alors il est occupé sur Death Stranding 2, il a son projet Audi avec Microsoft, et on avait une sensation qu'il fallait remettre un peu les pendules à l'heure pour rassurer les fans de Sony.
On sait que les fans de Sony sont en PLS depuis que Microsoft a annoncé avoir un projet avec Kojima, ils sont un peu tombés dans les pommes, donc je pense que c'était un move pour rassurer ces gens là quoi.
Et donc ce fameux projet, c'est un nom de code qui s'appelle Fizint, et donc qui a été présenté facecam par Kojima et Herman Hulst, qui a ouvert et conclu le State of Play, pour dire voilà que c'est un nouveau projet de jeu façon espionnage, donc le nouveau Metal Gear, on est d'accord. Voilà. Alors dites-moi si vous avez écouté, si vous avez reconnu, mais en fait pendant cette séquence filmée, il y a une musique derrière qui est très très douce et en fait qui fait penser à des nappes, qui fait penser à du Metal Gear. Donc je sais pas si c'est un son qui existe déjà, mais moi j'ai vu pas une note d'intention, mais dire, les gars.
Ah, mais c'était à deux doigts de nous faire des clins d'œil, les deux, en mode, ah là là, Sony et Kojima ont une expertise commune dans le domaine du jeu d'action espionnage, bon. C'est Metal Gear 6, comme on disait, hein, pour déconner, c'est que ça fait, depuis qu'il a quitté Konami, il a un petit carnet de notes, MGS6, comme ça, il note des idées qu'il aurait aimé faire.
Et pour le coup, je pense.
Sony est tombé sur le carnet, a dit, hey, Banco.
Il est tombé sur le carnet, il lui a dit plutôt, montre-moi ce carnet, qu'est-ce que c'est que ça? Que vois-je? Mais je pense pas du tout qu'il y aura de twist. Je pense pas que ça va être, genre, ah, vous pensiez que c'était un Metal Gear, ça ne l'est pas. Je pense que ça sera un Metal Gear. Je pense.
Ouais, après, ça va être dur de créer un nouvel héros derrière Snake et tout, mais.
Ça va être compliqué. Toi, tu disais qu'il va s'appeler Python, du coup, le héros?
Ouais, bon, on va déconner, ou, Onibi, je sais pas, ou. Là, en tout cas,
En fait,
sera pour la Next Gen, en tout cas, dont il nous a dit.
Donc, ouais.
PS6, hein, déjà.
Et il a teasé tout un. En fait, une façon de produire qui est au-delà du jeu vidéo. C'est quelque chose qui va être à la pointe, du sound design, du son, de la musique, de la mode. C'était pas anodin, ça, de dire la mode.
Quelque
chose qui, en fait, va un petit peu coupler les différents médias, les différents arts même. Et moi, ça m'a fait penser à la note d'intention qu'il avait dit pour Audi, le jeu Microsoft, où, justement, il avait dit c'était pas qu'un jeu, il y a des réalisateurs. Bon, ça, il a souvent travaillé avec les réalisateurs de cinéma, mais il avait quand même teasé, l'alliance des médias, ou en tout cas, la rencontre de tout ça.
Ouais, c'est même quelque chose qu'il avait dit dès qu'il avait fondé Kojima Productions, en fait, quoi. Cette volonté de synergie. Alors, ça reste un peu nébuleux de notre point de vue pour l'instant. Il a quand même insisté pour dire ça sera un interactive game pour, je pense, rassurer quand même les gens, mais pas que, ça sera aussi un film et ça sera aussi ça. On sait qu'il est de plus en plus jet set, hein, maintenant il commence à connaître de plus en plus de monde, tout le gratin.
Carrément, ça c'est...
Je pense que tous les réals de moins de 50 ans à Hollywood maintenant sont fans de Kojima, donc c'est peut-être eux maintenant qui vont vers lui naturellement plutôt que l'inverse.
C'est pour ça qu'il sécurise les vieux là, tu vois, George Miller, Del Toro, c'est fait, et puis après il va attendre que les nouvelles stars aillent vers lui, ouais. Jordan Peele,
oui. Donc, vivement Spielberg dans Death Stranding 3 peut-être.
Faut qu'il sécurise Spielberg, vite. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé au global du State of Play? Est-ce que t'as été rassuré sur le premier semestre, sur l'année à venir, tout ça? Qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah, c'était solide, beaucoup de jeux, du rythme et des jeux qui font envie. C'est vrai qu'on a beaucoup de perspectives immédiates et c'est un peu plus nébuleux pour le reste, mais bon, enfin, des joueurs de notre âge, quand tu nous montres du FF7, même brièvement, du Silent Hill 2, du Kojima de partout, bah, nous, on est évidemment conquis, quoi, donc.
Ouais. Et puis, sur un planning à 6 mois, et après dire, bah, Noël, on va voir, on communiquera plus tard, et 2025 encore plus loin, c'est pas déconnant non plus.
C'est pas déconnant non plus. Après, il y a toujours cette interrogation autour des studios first party, quoi, où on attend un petit peu la suite. Mais c'est vrai, comme je le disais pour déconner tout à l'heure, j'ai l'impression que, l'air Ryan, alors je veux pas tout lui imputer à lui, hein, mais il y a une espèce de stagnation où même les confs Sony avaient perdu de leur éclat et de leur qualité. Là, tu sens un peu plus d'envie, un peu plus d'énergie, un peu plus de... voilà, un peu plus excitant, quoi.
Mais là, parce que c'était un State of Play, il faudrait maintenant une grosse conf Sony pour justement mettre en avant les first parties où ils en sont, ça serait cool.
Après, leur dénomination State of Play Showcase, je trouve ça a plus trop de valeur, quoi. Le dernier Showcase était éclaté.
C'est vrai.
Là, ça aurait pu être s'appeler un PlayStation Showcase, personne n'aurait trop à redire. Donc,
ouais, c'est vrai. Bon, on sait pas trop la nomenclature de leur conf, mais bon, on attend. Le seul petit truc, c'est que voilà, on attend maintenant des nouvelles des triple A first party, de ce qu'il en est, tout ça. Que fait Naughty Dog? Que fait Housemarque, surtout? C'est ça qu'on se demande. C'est ça qu'on veut. Voilà pour ce State of Play, c'était plutôt cool.
Ouais, carrément.
Et voilà, on va passer maintenant. Alors, c'était un retour sûr, là. On a même pas commencé l'émission, là. J'espère que dans votre course, hein, vous êtes à combien? 24.
Il commence à avoir le point de côté, putain, les bâtards.
Ça va, là. Ça va. Quatrième.
Faites un tour de
5 kilomètres. Ah non, faut pas tourner en rond, c'est horrible. Les pauvres. Bon, ben accrochez-vous, hein, parce qu'on va parler de Persona 3. Alors, Persona 3 Reload, hein, qui sort aujourd'hui sur console PC Game Pass. Donc, niveau accessibilité, c'est plutôt facile. Alors moi, à l'époque, je l'avais terminé dans son édition FES, hein, même si je dois avouer que je me souvenais pas de grand-chose avant de commencer le remake. Mais bon, à présent, j'ai une quarantaine d'heures sur le remake. J'ai regardé beaucoup de vidéos, hein, pour faire des comparaisons avec la version P3P, donc c'est la PSP, et la version originale sur PS2. Et tout ça, bah, pas tant pour vous dire que le remake, il est génial, parce qu'il est génial, mais pour vous dire d'y jouer absolument, car le jeu de base est génial. Mais avant de passer à Persona 3, il est important de s'arrêter sur deux trucs, alors deux choses qui sont assez uniques dans une série et même dans le monde du jeu vidéo. La première, c'est que Persona est originellement une série spin-off. Alors, c'est pas ça le truc incroyable, hein. Ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est une série qui est devenue plus populaire que la saga dont elle est tirée, Shin Megami Tensei. Et c'est ça qui est pas commun. Moi, j'ai pas trop d'autres exemples de ce cas. Je pense à Fortnite BR, donc il y a un mode de Fortnite Sauver le Monde qui était un PvE, où le mode est devenu plus populaire que son jeu de base, mais sinon, j'ai pas trop d'exemples de...
Je sens ma carte Forza Horizon.
Oh!
Joli.
Très très jolie, très jolie carte. Et le second truc qui est assez rare, c'est que la série Persona, elle a réellement explosé Alors explosé, je veux dire, tu vois, dans sa reconnaissance grand public, bah, qu'au cinquième épisode. Pareil, ça arrive, mais j'ai pas trop d'exemples en tête de séries de niche qui explosent vraiment sur le tard. Par exemple, dans le truc niche, vraiment, t'as Nier Automata, c'est le deuxième. Witcher, troisième. Elden Ring, si on considère que c'est Dark Souls 4, mais c'est une nouvelle IP, donc ça marche pas. FF7, hein. Mais ça marche pas non plus, c'est une question de localisation, le jeu n'était pas sorti dans le monde entier. Nico, est-ce que tu as une carte à abattre?
Sur ma carte, j'en sais rien. Non, ouais, non, c'est vrai que là, je vois pas, et encore, enfin, tu vois, Witcher et tout, les premiers cartonnés étaient reconnus, mais là, ils ont passé, voilà, l'explosion grand public.
Nier, tu vois, Nier Automata, mais là, c'est Persona 5, tu vois, c'est quand même.
Is 7?
Is, c'est explosé. Is, ça m'intéresse.
Explosé à une petite bombinette.
Tu sais que tout est enregistré vidéo et audio.
De petites grenades.
En tout cas, les deux premiers Persona, eux, ils sont pas sortis en Europe, mais aux États-Unis. Et le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, P3, bah lui, il est sorti partout. Même chez nous. Bon, même si c'était un an et demi après le Japon, il est sorti chez nous. Et on l'a dit, la grande popularité de Persona, bah, elle est arrivée qu'avec P5 et non P3. Alors que Persona 3, bah, ça a été une grande révolution dans la saga, ça a été même la grande révolution de la saga. Et on l'a vu, Persona, c'est une série spin-off de SMT, Shin Megami Tensei. Mais les deux premiers Persona, alors je dis deux premiers Persona, mais P1 c'est un jeu et P2 c'est deux jeux.
Donc
c'est
un bouquin sur le sujet.
C'est un diptyque. Mince, j'ai pas fait le derrière nous. Bah, non, normalement, il y a des livres derrière nous. Oui, là, voilà.
Persona volume 1.
Ouais.
Mais oui,
on
c'est
explique
compliqué,
un
oui.
petit peu tout ça. Donc les deux premiers Persona, donc ils sont trois, attention. Ils ont été développés par la team Shin Megami Tensei. Donc Okada, Kaneko, Satomi, donc au poste de réal et production pour Okada, Kaneko à la direction artistique et Satomi pour le scénario. Et c'est à partir de Persona 3 qu'une nouvelle équipe a été mise en place, donc Ashino, Sojima et Tanaka, respectivement, au même poste. Et donc il y a eu un tournant qui était super important au niveau de l'équipe de dev, et c'est pas un hasard parce que c'est le début de l'identité Persona qui est réellement apparue, tu vois, avec P3.
En gros, c'est quand les mecs comme Ludo de l'équipe, hein, que vous connaissez bien, ont commencé à délaisser Persona, voilà. Parce que c'était plus assez SMT pour eux.
Carrément. Et avant ça, les deux premiers épisodes de la série, bah, ils étaient encore assez proches de SMT, donc Ludo, il devait aimer un petit peu encore. Et le vrai trait d'union entre Persona et SMT, bah, c'est SMT 3 Nocturne, qui est sorti entre P3, entre P2 et P3. Et d'ailleurs,
ouais, je prends des notes.
P3, il se nomme Shin Megami Tensei 2. Persona 3. Tu vois, il y avait vraiment le trait d'union, il était encore là. Et donc, il y a énormément de points communs entre Nocturne, la SMT 3 et P3, comme bah, le système de faiblesse, qui est devenu un petit peu le système, tu vois, signature de la série Persona. Un autre point commun, et pas des moindres, hein, c'est quand même Shoji Meguro, qui est le compositeur de Nocturne et des Persona. Et Meguro, bah, c'est vraiment une part énorme de l'identité de la série. Et même s'il a participé à toutes les OST des Persona, dans une moindre mesure, bah, il a réellement pris le lead, hein, qu'avec Persona 3. Et par exemple, le fait qu'il donne une couleur musicale à chaque épisode, par exemple rap fusion c'est P3, pop rock P4 et jazz P5, et que chaque épisode possède une couleur dominante, bleu, jaune et rouge, bah, tout ça, c'est né avec P3. C'est de là où je parle vraiment de l'identité. Et quand je vous dis que P3, c'est vraiment le début de la saga Persona, bah, je pense pas que j'exagère. Et il y a certains éléments qui étaient présents dans SMT, on vient de le voir, mais l'identité propre de la série, bah, elle va s'affirmer avec des vraies, vraies nouveautés à partir de P3. Par exemple, la fin des négociations avec les monstres. C'est quelque chose qui est propre au SMT, qui était présent dans les deux premiers Persona. Ben, ça, c'est terminé. Il va y avoir le début de la fusion. Et avec un personnage d'Igor et la Velvet Room, ce qui est bien connu, mais eux, ils étaient déjà dans P1 et P2. Et donc, ça, c'est né avec P3. Le système de faiblesse, je l'ai dit avec Nocturne. Mais, je sais pas si tu te rappelles, dans P5, la grosse attaque groupée avec tous les ennemis qui vont quand c'est au sol, ça, c'est P3. Les social links, donc qui sont un petit peu la traduction de la thématique du jeu quand même, hein, qui s'appelle Persona. En gros, plus t'entretiens des relations avec des personnages, donc plus tu as de posture sociale, plus tu gagnes des personas, et donc plus t'es fort. Ben ça, c'est P3 aussi. La séparation du jeu en deux, avec une partie simulation de vie et une partie donjon la nuit, ben ça aussi c'est P3. La gestion du calendrier, après j'arrête. La gestion du calendrier avec la progression, tu sais, du quotidien qui est plus réaliste. Ben ça, devine. Ben c'est P3 aussi.
Ça prestige.
Bon, j'espère que t'es convaincu et que vous aussi. Hein.
C'est le vrai premier Persona, quoi. Cherchez pas si vous voulez faire la série. Les premiers, c'est presque voilà, c'est autre chose, quoi. Et c'est pour ça qu'ils seront jamais remakés, certainement.
Allez, bam, demain, annonce. Alors, voilà, les éléments qui ont fait le succès hein, de Persona 5, bah, ils étaient déjà tous présents dès le troisième épisode. Alors, enfin, presque, hein, le jeu, il n'était pas traduit en français quand il est sorti sur PS2. Mais bon, ça n'explique pas tout, car le jeu, il était bien dispo dans sa version PAL, donc en Europe, et il est sorti partout en anglais, donc il aurait quand même pu, je pense, rencontrer un succès public. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Alors pourquoi ça n'a pas marché à sa juste mesure? Il y a plusieurs raisons, la localisation, on l'a vu, le timing, la concurrence. Mais bon, trouverais moi encore plus ouf, bah, c'est que le remake de P3, bah, lui, ne lui rende pas justice. Car maintenant, il n'y a plus d'excuses. Le jeu, il est en français. Le jeu, il est plus beau que Persona 5. Alors, la concurrence, c'est pas gagné, hein. Si tu veux qu'on en parle deux secondes, Nico, par exemple, là, P5 sort en même temps, enfin, Reload sort en même temps que Yakuza 8. Du même éditeur.
Oui, une décision un peu étrange.
Exactement en même temps. À la fin du mois, il y a FF7 Rebirth. Au début du mois, il y a Grand Blue Fantasy Relink. Niveau concurrence, ça va être assez compliqué. C'est vrai que c'est assez particulier.
Ouais, mais bon, je pense qu'ils se sentent forts aussi, forts du succès de P5. Ils savent que maintenant, c'est une licence qui compte. Donc, je pense que ça montre
on n'a pas peur, quoi. Alors, juste pour précision, hein, le P3, il a été traduit en français pour son portage HD de la version PSP. C'est compliqué toutes ces itérations du jeu, mais on va tout résumer à la fin, ne vous inquiétez pas. Parce que là, on peut être perdu. J'ai même pas lâché les abréviations, hein, les P3P et tout, t'inquiète. Alors, le remake de P3, il est localisé en français. Check, c'est validé. Le gap technique avec P5, check, c'est validé aussi. Et toutes les petites améliorations qui ont été apportées avec P4 et P5, bah, sont maintenant dans Reload. Donc, c'est super, check et validé. On est bien, le jeu, il doit cartonner. Et donc la première chose qu'on voit, bah, c'est les graphismes. Bah, on est à présent sur un standard qui est supérieur à Persona 5. Mais bon, c'est même pas le plus impressionnant. Je trouve perso que le plus impressionnant, c'est la mise à jour de tout ce qui est interface, les menus, la HUD, les effets en combat, tout ce qui entoure le jeu. Bah, c'est méga, méga, méga beau. C'est du niveau de Persona 5. Et P5, hein, c'est encore ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'interface utilisateur, en termes de style, de dynamisme, de classe. C'est vraiment une grosse tuerie. Mini petit regret, c'est à l'époque de la PlayStation 2, le menu en combat, c'était une forme de barillet de gun. Parce que justement, quand tu déclenches ta persona, tu tires une balle à la tête, ils l'ont enlevé. C'était un truc un petit peu stylé, ils l'ont tège. Mais bon, t'es d'accord, en termes de HUD, on a même fait un top 3 à l'époque. P5, ouais.
C'est ouf quand un jeu se fasse connaître, notamment pour cette caractéristique, hein, parce que c'est quelque chose d'assez secondaire en général, et ça a joué, mine de rien, je pense, dans cette explosion de Persona 5 auprès du grand public, quoi.
Alors, autre ajout en combat, on a maintenant la possibilité aussi de prendre le contrôle des alliés. Parce que sur PlayStation 2, tu ne gérais que ton héros. Et les c'est autres, vrai. C'était de l'IA. Alors, tu pouvais gérer des stratégies. Hein. Alors ça, sur le remaster de P3P, donc sur PSP, c'était déjà le cas. C'était l'année dernière. Donc, à la base, sur PS2, tu pouvais gérer des stratégies. Tu disais full attaque, soutien ou utilise des personas. Et l'ordi, il faisait le reste. Maintenant, bah, tu maîtrises tout, tu profites un petit peu mieux des bastons. Et tu pètes moins des câbles sur l'IA. Ça, c'est quand même le plus important. Autre apport de P5 par rapport au combat, t'as une mécanique qui était quand même super sympa, c'était la mécanique des relais. En fait, tu peux intervertir un personnage avec un autre qui est resté sur le banc si t'as un lien suffisamment fort avec lui. Mais bon, on va pas poursuivre le listing, et c'est loin d'être terminé niveau amélioration, parce qu'en fait, en gros, t'as plus d'activités scolaires, t'as des nouvelles scènes animées, t'as un nouveau super cool Limit Break, tu peux te téléporter avec ton perso pour aller d'une activité sociale à une autre, donc c'est ultra pratique. Mais bon, ce qu'il faut retenir, le truc, c'est qu'à tous les niveaux, P3 égale ou il surpasse Persona 5. Et maintenant que le factuel, il est connu, bah, la question qu'on peut se poser, c'est bah, quel est l'enjeu de ce remake ? Persona 3, on l'a vu, bah, il a pas trop fonctionné lors de sa sortie. Du coup, le remake de Persona 3, bah, il a pas une visée nostalgique. En fait, le but du remake, c'est de réparer une injustice. C'est un remake de réhabilitation. Il faut convaincre ceux qui ont aimé P5 de jouer à P3. Parce que c'est P3 qui aurait dû récolter les lauriers, mais sinon, ça a été P5. Et du coup, c'est pas comme ça que les choses se sont déroulées. Et depuis, Persona 5, c'est devenu le nouvel étalon. C'est le nouveau modèle sur lequel l'ensemble de la marque Persona s'est articulé. Et en plus du jeu de base, bah, P5, il a eu une version définitive qui s'appelle P5 Royal, même si c'est un move classique, hein, ça ils le font à chaque fois. T'as eu une suite directe avec un autre système de combat, c'est Strikers. T'as eu un dungeon crawler, c'est Persona 5 Q2. Un tactical, qui s'appelle Tactica. Un jeu de danse, Dancing in Starlight, un free-to-play mobile qui s'appelle Phantom X. En gros, t'as plus de jeux estampillés Persona 5 que d'épisodes canoniques dans la série. Et entre la sortie de Persona 5 original et aujourd'hui, il s'est passé 8 ans.
Un petit coup de vieux, là.
Alors, c'est pas GTA 5, parce que GTA 5, c'est 2013, il a traversé deux générations de consoles, mais presque. Et tu vois.
Il est sorti sur PS3, ouais, PS5.
Donc,
à la base.
En termes de longévité.
Ouais, ouais. C'est ouf.
Après, ce qui est amusant, c'est que Persona 5 et GTA 5, c'est les cinquièmes épisodes de leurs séries respectives. Est-ce un hasard ? Alors oui, totalement. Même si la comparaison, elle est un petit peu cavalière, les raisons, en fait, de la stagnation des séries Persona et GTA, en fait, c'est la même. GTA 5 et Persona 5, bah, ils font vendre, ils sont surrentables, donc finalement, à quoi bon produire leur relève ? Alors après, on parle de stratégies similaires, mais GTA 5 et P5, c'est deux mondes ailleurs. Hein. GTA 5, c'est 185 millions de ventes.
Oui.
Persona 5, tu veux deviner ? Alors, pas Persona 5, toute la famille des jeux Persona.
Ouais, je crois que c'est quoi, 10 millions hein.
C'est exactement ça. T'as 10 millions sur tous les jeux Persona 5.
Oui, mais comme voilà, faut replacer à l'échelle dans le cadre d'un JRPG de niche au combat tour par tour. Enfin, c'est ils sont sortis de la niche quoi.
Voilà. Mais c'était le petit comparaison de stratégie pour rigoler. Après, pour revenir à P3, on peut pas enlever à Atlus le désir de réhabiliter P3. Ils ont tout essayé. Le jeu, il est sorti en 2006. Donc, je vous donne les dates Japon. Il est sorti en 2006 sur PS2. L'année suivante, il y a eu la version FES avec un épilogue de 30 heures en plus qui s'appelle The Answer. En 2009, t'as eu la version portable, PSP, donc on l'appelle la P3P. Donc, elle est un petit peu plus visual novel dans les phases d'exploration. Mais sinon, t'as le tartare avec les étages, le gameplay, c'est tout pareil. Tu pouvais justement là avoir tous les personnages de contrôle, ça c'était quand même important, et t'avais un nouveau perso principal, tu pouvais choisir un perso masculin ou un perso féminin. Mais
c'était la même histoire quoi, c'est juste
exactement la même histoire. Ouais. En 2023, l'année dernière, t'as eu un remaster de la version PSP en loose day, tu vois, genre acheter le remaster PSP. Donc première fois que le jeu était en français avec donc aussi les bastons libres, ça c'est chouette. Et en cette année, en 2024, le Persona 3 Reload Remake. Donc t'as 5 versions du même jeu, il y a aucune version qui est ultime avec tout le contenu. Alors, ils abusent hein, car c'est sûr qu'il va y avoir une version finale avec le contenu FES en mode remake. Oui. C'est que des rumeurs, mais ça va arriver. Franchement, il y a aucun souci là-dessus. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette stratégie? Pourquoi ils font ça? Alors, au début, je pensais que c'était pour créer un long seller, comme Persona 5 qui se vendent sur la longueur. Mais en fait, je pense que c'est pas ça. Et en fait, c'est tout bête. Ils font ça pour temporiser. Car la team Persona, donc Ashino, Sojima, Meguro, elle est pas en train de faire un Persona. Et ça, depuis Zion, depuis des années. Elle était sur Metaphor Refantasio, c'est un Persona médiéval. Et il sort cette année. Et je pense que Atlus, en fait, ils veulent pas changer d'équipe. Ils veulent pas redonner les rênes à la team SMT, ou ils veulent pas trouver une autre équipe pour faire des personnages. Non. Ils attendent, ils temporisent. Et ça fait un peu penser à Final Fantasy, et justement les questionnements qu'on avait sur Final Fantasy XVII. Qu'est-ce qu'ils font? À quelle équipe ils la donnent? Et là, en tout cas, j'ai l'impression qu'Atlus, au moins, ils savent, ils se disent non, la team Persona, c'est Persona, allez faire votre métaphore et Fantasio, ça prendra le temps que ça prendra, et quand vous reviendrez, vous ferez P6.
Ah, c'est marrant, j'imaginais pas ça comme ça, moi.
Vas-y, dis-moi.
J'imaginais vraiment que, en gros, c'est bon, la team Persona a fait autre chose, maintenant, ça y est, c'est acté, ça sera une nouvelle époque, et on va avoir une team qu'on va entraîner sur les remakes de P3 et P4 pour qu'ils puissent nous faire un P6 dans 10 ans.
Ok, on verra du coup comment ça va se passer, mais ils ont tellement, moi j'ai l'impression qu'ils ont de l'or, enfin ils savent qu'ils ont de l'or dans les mains et qu'ils ont une formule que presque les tauliers ils ont en tête, et le métaphore Fantasio, il est en train de dupliquer la formule Persona.
Ouais, mais donc, comme tu l'as dit, P5 a tellement établi un cadre en fait que presque il suffit de le suivre quoi maintenant.
C'est vrai que le P6, mais qu'est-ce qu'ils attendent alors?
Ben je pense que justement tu traînes une nouvelle équipe avec voilà des nouveaux chefs de projet, tu apprends à gérer un budget, un business avec un projet plus facile.
En tout cas, si c'est cette stratégie que tu évoques toi, je trouve qu'ils ont été longs à la détente quand même, parce qu'ils auraient dû les enfin si c'était ça.
Oui, après comme tu dis, ils ont voulu traire la vache à lait P5 jusqu'au bout quoi.
En tout cas, il y a eu une petite news concernant nos discussions sur Final Fantasy 17, à qui on va octroyer le pouvoir. Oui, souvenez-vous, donc toi tu pensais à la team Asano, et donc là en petite news, il y a quand même le Tokyo RPG Factory qui était une filiale de Square Enix, donc qui ont fait des jeux à vocation d'être des RPG à l'ancienne, Ayam Setsuna, Lost Sphere et Oninaki, qui étaient pas ouf, hein,
oui, franchement. Qui n'ont pas convaincu grand monde.
Moi j'en ai fait que deux hein, sur le lot et c'était vraiment pas très très convaincant. En fait, ils ont été absorbés par Square Enix, donc ils retournent sur le QG en fait, ils sont en interne. Et en fait, un petit peu à l'image de Luminous, ils se retrouvent tous chez Square Enix en interne et pas dans des filiales. Qu'est-ce que vont faire tous ces gens-là? Est-ce qu'ils vont être...
Est-ce qu'il y aurait pas une belle équipe à disposition pour mener un FF17? Je ne sais pas.
Ouais, mais attends, là, t'as des spécialistes, même pas, parce qu'ils ont même pas fait des bons RPG à l'ancienne. Spécialistes dans le JRPG de l'époque, rétro. Et toi, tu mettrais la team Asano qui est spécialisée là-dedans pour FF17, là où, tu vois, FF, normalement, c'est la modernité. Ça serait un virage, c'est du jamais vu.
Ah, ils ont tenté la modernité, là, et je sais pas si ça leur a réussi complètement, quoi.
Ouais, ça serait très, très, très étonnant. Alors, du coup, si Reload, il se met au niveau de Persona 5, il garde néanmoins quelques défauts, je pense, qui pourraient déranger certains joueurs. Par exemple, le fait que le Tartare, ou le Tartarus, hein, ceux qui l'ont fait à l'ancienne, en fait, ce donjon qui est fait de 250 étages générés aléatoirement, c'est toujours similaire d'étage en étage. Alors, il y a des variations de couleurs, des textures, t'as des petits objets interactifs, tu peux courir, ça c'est bien. Maintenant, avant, tu pouvais pas, et t'as des bonus de stats, ça c'est un peu stylé, mais ça reste la même chose.
Oh, c'est le truc qui me refroidit, moi.
Ouais. Et t'as pareil pour les donjons qui sont mensuels. Donc, en fait, à chaque pleine lune, c'est un jeu qui est en semi, pas en temps réel, mais t'as un calendrier. Et en fait, à chaque pleine lune, t'as les ombres qui sortent du Tartare. Et en fait, tu dois les affronter dans des lieux de la ville. Et t'affrontes un boss. Ça change de décor. C'est sympa. Mais comme à l'époque, c'est une espèce de grande ligne droite. C'est tout nul. C'est ultra limité. C'est pour ça que je dis donjon avec des guillemets, quoi.
Ouais. Donc là, si tu sors de P5, t'auras peut-être une déception là-dessus, quoi.
T'as pas des palais. Et, t'as peut-être un truc aussi qui peut déranger, c'est le fait que le jeu, il soit long, très long. Moi, j'ai joué 40 heures et je peux vous dire que je suis qu'à la moitié du jeu.
Je pense que les fans de P5, ils connaissent, ils savent.
Ça, ils savent. Néanmoins, que ça soit la longueur de l'aventure ou même la forme du Tartare, ben, je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient touché à rien. Parce que ce sont des éléments qui sont, à mon sens, constitutifs du propos du jeu. La répétitivité, le temps long, c'est des éléments du discours de Persona 3. Le questionnement sur notre quotidien, sa construction, la gestion du temps, faire tout ça et le faire et nous le faire réaliser, ben, ça prend du temps. Et je pense pas que ça marche sur un jeu qui est plus court. Il y a clairement en plus un côté qui est addictif, tu vois, à gérer le quotidien de notre avatar, c'est un peu Sims en JRPG, hein, je dirais. Et en fait, au fil des heures, tu comprends que dans le titre, tu pourras pas tout faire, tu pourras pas tout compléter. Tu peux pas 100% le jeu dans une première run, c'est absolument impossible, mais c'est tout à fait volontaire. Persona 3, c'est une aventure qui matérialise cette gestion du temps. Alors comme on dit, hein, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que les gains égalent les pertes. À chaque moment, en fait, chaque moment que tu fais, ça doit être un moment qui est pensé. Si tu vas en fait à une soirée avec un ami dans le jeu, tu vas pouvoir augmenter ta persona, son niveau, mais tu pourras pas aller travailler et gagner de l'argent. Ou tu ne pourras pas aller dans le Tartare pour monter de niveau.
C'est le jeu de la vie, quoi.
C'est le jeu de la vie. Mais exactement, hein, c'est le jeu de la vie. C'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Et ce qui pourrait passer pour des écueils, sont pour moi des singularités qu'il fallait conserver. Je sais que ça fait bizarre, mais c'est vraiment le propos du jeu. Il y a même un petit regret. T'as une nouvelle option qui s'appelle le Rewind et qui est disponible dans le menu pause où tu vas pouvoir revenir sur certaines demi-journées.
Ah ouais?
Et je trouve ça pas bien. Enfin, non,
ouais, c'est... bah ouais, c'est chelou. Mais genre, c'est limité ou c'est...
Ouais, c'est limité, ouais. Je l'ai vu qu'à la fin, c'est dans le menu pause et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu éclaté. Je trouve que c'est pas à propos, ça va pas dans le sens du remake. En tout cas, ils ont même pas accéléré les combats, donc tu vois, c'est qu'ils étaient cool. Alors pour conclure, je dirais que le remake de Persona 3, il est pas là pour remettre l'église au milieu du village. Tout simplement parce que cette expression veut pas dire rétablir une vérité, mais elle signifie faire respecter la tradition. Et respecter la tradition, c'est justement garder la lumière uniquement sur Persona 5. Et c'est cette tradition hein, qu'il faut abolir. Alors ça part mal, hein, parce que le premier DLC officiel de P3, c'est un DLC P5, où en fait on va pouvoir faire venir Joker avec des costumes et tout, je suis dégoûté. Mais bon, le remake de Persona 3, il est là pour corriger cette injustice. Reload est donc un jeu qui reprend le vernis, on va dire, de Persona 5. Il reprend son apparat, mais il ne lui emprunte pas le génie, car P3 possédait déjà tout le génie suffisant à l'époque. Ce Persona 3 Reload, moi je pense qu'il faut pas y jouer pour ce qu'il est devenu, mais il faut y jouer pour ce qu'il a toujours été. Et je vous enjoins vraiment à le faire, c'est une bombe.
C'est beau. Ouais, c'est vrai que du coup, voilà, n'ayez pas peur si vous dites j'ai fait P5 et j'ai aimé, mais là je vais pas me taper un remake d'un vieil épisode. Si, ça vaut le coup et c'est quasiment presque un P6 pour vous, quoi, si vous connaissez pas la franchise, quoi.
C'est clair. Et vous verrez, voilà, le début, le réel début de la série Persona, ce que c'est devenu. Et si vous êtes chaud sur Métaphore et Fantasio, c'est bien de savoir Persona 3 ce que c'était, ce qu'a engendré P5, par la suite P4 et P5, parce que Métaphore, ça a l'air d'être vraiment ça.
En tout cas, kudos à tous ces gars d'avoir mis les moyens, d'avoir, comme tu dis, tout donné. Voilà, ils pourront pas avoir de regrets si ça marche pas, mais tout donné pour remettre cet épisode-là au centre de l'attention, quoi.
Allez, pour la blague, tu sais que l'expression remettre l'église au milieu du village, en Belgique, ça veut dire garder la tête froide. Et en Suisse, ça veut dire donner tous les détails. Donc c'est en fonction du pays francophone, ça a pas du tout la même signification.
Amis belges, amis suisses, on vous salue.
Ouais. Encore une fois, donc ouais, garder la tête froide, c'est pour, je trouve ça assez marrant. Voilà, donc on a passé le plat.
On est repu.
Il y a, comment on appelle ça là, le trou normand. Le petit trou normand, se mettre bien avant
petit calvados,
avant le dessert. Et du coup, ta chronique, c'est le fromage, ça te plaît plus.
Ouais, ma foi.
Voilà, tu vois. C'est l'heure de l'interlude top 3, un interlude qui s'intéresse cette semaine aux jeux qu'il ne faut pas juger à leur jaquette. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors,
on a fait le top des plus belles jaquettes. Là, c'est les jeux qui ont des jaquettes moches, mais qui sont des bons jeux. Et donc, voilà, ne jugez pas un livre à sa couverture, ni un jeu à sa jaquette.
On est très sur les expressions.
Sais-tu qu'en Suisse
et en Belgique. Allez, go pour le top 3 des jeux qu'il ne faut pas juger. Alors, Jaquette, je te laisse commencer.
Alors là, je me suis fait une petite brochette, hein, tu me pardonneras, mais il y avait tellement à dire.
Non.
J'ai fait une petite brochette Master System, parce que s'il y a bien une console qui a des jeux avec des jaquettes complètement dégueulasses, c'est la Master System. Donc, j'aurais pu en citer 50, je vais juste me contenter de Shinobi, Afterburner et Alex Kidd. Je pense que 3 bons jeux, on sera d'accord là-dessus.
Alors, Shinobi, je la vois, Afterburner, je la vois, et la troisième, c'est quoi?
Alex Kidd. C'est genre, il est dessiné trop moche et avec un point géant.
Alors, Alex Kidd, je suis pas d'accord.
En fait, elles ont une charte commune, ce qui en soi est plutôt une bonne idée. C'est, ouais, cet écran, c'est ce fond blanc quadrillé,
ouais,
qui sent bon les années 80, on va pas se mentir.
Sent bon.
Le problème, c'est que l'artwork de chaque jeu est dessiné par un enfant de 4 ans et demi.
C'est pas faux.
Alors, je pense que voilà, cet enfant doit être riche vu la somme de dessins qu'il a dû produire.
Est-ce qu'il a pris des droits d'auteur, c'est ça, hein?
Je sais pas.
Mais je suis moyen d'accord parce que Shinobi et Afterburner, c'est pas vraiment la vraie charte. Shinobi, t'as un début d'artwork et c'est
Shinobi, ouais, c'est presque une demi long coupé en deux la jaquette,
peu,
quoi.
Et Afterburner un peu, hein?
Non, genre, Afterburner, c'est l'avion moche, pareil.
Ah,
sur
j'ai confondu avec la Ferrari.
Ah oui, non.
C'est, je sais plus comment il s'appelle, lui.
Ferrari.
La Ferrari. Tu sais, le jeu de...
De Yusugi.
Ouais. Putain, oui. J'ai bouffé. Bref. Et, oui, donc d'accord, Shinobi, je suis pas d'accord pour cela parce que c'est moitié-moitié. C'est pas vraiment...
Non, mais l'artwork en lui-même est dégueulasse aussi.
L'artwork en lui-même est vraiment dégueulasse. C'est pas sympa. Master System.
C'est le jeu.
Mais c'est de très bons jeux.
Ça qui est important. Oui, voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
Voilà, c'est de très bons jeux avec des jaquettes un peu éclatées. Alors, pour ma part, on va...
Outrun.
Outrun. Et je crois qu'Outrun, est-ce qu'il est sorti sur Master System?
Je sais pas.
Mais j'ai un peu un souvenir de comme Shinobi à moitié-moitié. Bon, peut-être que je dis une bêtise, je n'en sais rien. Mais pour ma part, on va filer sur Mega Drive, génération suivante. Voilà, je vais pas aller sur Master System. Hein. Sur un titre que j'adore et le jeu il est excellent, c'est Light Crusader. Tu te rappelles de ce jeu?
Avec le mec blond là, sur la jaquette.
Avec le mec blond. Donc moi quand j'étais petit, je l'ai eu et tout. Et c'est un jeu Treasure. Je savais pas du tout qui était Treasure ni pourquoi, mais donc les Cador, Ikaruga, Radiant Silvergun, ces génies là ont fait un jeu en 3D isométrique, ma foi, mais dur. Mais qu'est-ce qu'il était chaud. J'ai pété des câbles. Mais je l'ai jamais fini de ma vie. Ce
ouais, bah, on finissait pas les jeux.
Et sa jaquette est dégueulasse, je trouve. Alors l'artwork, je le trouve un peu sympa, mais un peu à initier. Il est bien, mais en fait, j'ai toujours trouvé moche ce jaquette.
Ouais. Bah ouais,
un
ouais,
chevalier
ouais,
sans casque.
Chevalier en armure avec voilà cheveux longs blonds.
En plus, je l'ai connu moi ce titre qu'avec la seconde version des jaquettes de Mega Drive, c'est-à-dire avec le contour bleu.
Ok.
C'est pas la première qu'il y a eu deux.
Ouais. Ouais. Alors, je retiens que chez Sega les boîtes de jeux. Hein.
Ça, c'est on a déjà fait
les Saturn, les boîtes en carton.
Allez, balance ton top 2.
Mon top 2, ben là aussi, un jeu que j'adore et je vous en ai parlé. C'était un de mes coups de cœur de l'année. Je sais plus lequel. Il y a 2-3 ans. The ouais. Forgotten City.
Ok.
Donc voilà, on se retrouve pris dans une boucle, revenir au temps de l'Empire romain et tout. C'est super, c'est un jeu d'enquête et narratif, super cool. Mais la jaquette, on dirait, t'en rappelles, Encarta, l'encyclopédie qu'on avait quand
oui,
on était jeune,
vrai,
quand il n'y avait pas Internet, avec des modèles 3D de chevaliers romains modélisés, mais genre dégueulasses, ça donne tellement pas envie. Et je suis deg parce que le jeu est excellent. Et je suis sûr que la jaquette a dû faire zapper des ventes, quoi.
Ouais. C'est vrai que ça fait très très Encarta, un peu ah, encyclopédie ouais, de l'époque.
Encyclopédie nulle, quoi.
Mais là, y a pas de boîte. C'était la miniature.
C'est une jaquette. C'est une bonne question.
Non mais si, t'as raison.
Mais en tout cas, voilà, ne vous fiez pas à cet artwork dégueulasse. Le jeu est excellent.
Ouais, carrément. Alors, mon jeu, on reste chez Sega et on avance d'une génération. On passe à la Saturn. Et alors, c'est un titre qu'on n'est pas beaucoup à avoir fait. On aime beaucoup le premier numéro, mais moi, je vous parle de La Légende de Thor 2. Donc toujours pareil, Yuzo Koshiro, le studio de Yuzo Koshiro qui s'appelle Ancient et le titre, moi j'adore le premier, j'adore le second et le second vraiment, je crois qu'on est 3 à l'avoir fait.
Ils ont pas rien à voir un peu les deux genres
Bah rien à voir entre eux, mais ouais. C'est un peu le même postulat.
Okay.
Et la jaquette, tu l'as pas peut-être?
Celle-là, je l'ai pas.
Faudra que tu regardes la vidéo parce que ouais. Je pense que Ken va nous faire un super synthé, mais elle est immonde. Elle est dégueulasse et le jeu est super et même c'est un petit peu pour dès que j'ai l'occasion de parler de Légende de Thor, n'hésitez pas, il est dispo sur Switch, le premier, il est dispo sur Switch Online donc sur Mega Drive. Donc et ton numéro 1? Là, faut y aller, là.
Ouais. Alors, mon numéro 1, j'ai mis Tekken, c'est God Hand. God Hand, le jeu Beat'em Up de Shinji Mikami chez Clover.
Ah,
ouais.
Putain, il est dégueulasse.
Et c'est genre, bon, après, le jeu a un univers très Ken le survivant et tout, donc ils ont joué là-dessus. Mais la jaquette, c'est un mec, genre un punk, qui se prend, il y a un point comme ça devant la gueule. C'est dégueulasse.
Est-ce que c'est la jaquette? La nôtre, ou est-ce que...
C'est la nôtre, ouais, il me semble, ouais.
Peut-être qu'au Japon, elle est super stylée. Hein.
Ouais, c'est possible que ça, enfin, ça arrive souvent qu'il y ait des jaquettes différentes selon les régions, mais là, bah, si on devait chercher une raison à l'échec du jeu, faut pas aller chercher plus loin, je pense.
C'est vrai que chez nous, elle était vraiment immonde et le jeu est vraiment génial. Vraiment
très dur.
Mais très dur. Mon top 1, c'est un jeu que tu connais. PS1, 99, c'est Galerians. Alors,
Oui,
la jaquette.
Ah oui, oui, c'est bon, je l'ai.
La jaquette, c'est une sacrée fiseur. Et c'est parce que c'est un fond blanc et t'as la tête du héros là qui. En plus, le héros est dans le mal, tu vois.
Ouais, mais il est pas au top. Ouais. Mais ça, au lieu de mettre un artwork un peu manga et tout, quoi, c'est genre un vieux modèle.
J'ai pas regardé, mais possiblement au Japon, elle est superbe.
Mais le jeu est top.
Le jeu est top. C'était exceptionnel.
Une excellente surprise.
C'est un Resident Evil like, mais plus psychologique, avec des pouvoirs télékinésiques.
C'est Akira, quoi.
C'est Akira. Akira. Quoi. Mais en plus, comment il s'appelle ce film? Chronicles. Ouais. Avec l'acteur qui joue dans Cure for Life.
Ouais.
Qui a la gueule du héros de Galerian.
C'est vrai.
Mais c'est le même.
C'est vrai. Sa il tête pourrait faire une adaptation, direct.
Mais, moi, Galerian, ça n'a rien à voir avec le top, mais il faut le remaker, ce jeu. Au moins, donnez-moi une occasion de le jouer avec un petit remaster, mais c'est un remake de ce jeu, ça serait une espèce de dinguerie.
En tout cas, sinon, s'il faut, il est pas si bien que ça, c'est juste.
Non, on soit pas ce mec-là. Si, si, il est bien, on le garde en mémoire comme un excellent jeu, et voilà, si on pouvait y jouer, ça serait cool. Donc voilà, pour ce, est-ce que t'as des mentions?
J'ai quelques mentions, évidemment. Alors là, je pense, qu'est-ce que tu vas te rappeler? Si je dis Batman Arkham City, mais l'édition Game of the Year. En fait, ils ont pris la jaquette du jeu, ils ont calé, tu sais, les notes de la presse partout.
Okay.
Et t'as fait une jaquette, mais complètement horrible. Et pour le coup, je pense que là, c'est assumé pour le côté rigolo, quoi. Donc, comme c'est une version Game of the Year, ça passe, quoi.
C'était... C'est pas mal, c'est que là, tu juges vraiment la jaquette de ce qu'en a fait l'éditeur, tu vois.
Oui, oui.
Des trucs dégueulasses dessus, ok.
Silent Hill Shattered Memories, hein, avec la petite fille congelée sur sa balançoire. Qui est pas ouf.
Elle est pas, en fait, elle est pas très bien modélisée, mais.
C'est moche. Ça donne pas envie. Mais le jeu est top.
Donc, ouais. C'est à l'image. Non, pas à l'image du jeu, mais c'est que c'est pas bien fait comme jeu.
Et je finis en te faisant du mal. Siphon Filter 3. Alors, j'aurais pu dire les Siphon Filter déjà à l'ensemble de leur œuvre, mais le 3 c'est la pire parce que.
C'est quoi le 3?
C'est le héros et la meuf comme ça, genre qui regarde vers nous, la bam, en mode modélisé dégueulasse, random car design.
Ouais, mais Gabriel, donc le héros.
Gabriel, alors c'est le héros le moins classe du monde.
C'est Gabriel Logan, il s'appelle? Non?
Gabriel
il y a pas
Logan.
Délire avec Logan.
C'est possible.
Il a une attitude.
Il est
toujours un petit peu sur le côté.
Elvis, dégangoncé.
En fait, il a un centre de gravité différent du nôtre, et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu traduire dans la jaquette.
Il est toujours
de côté, tu sais pas trop un petit
en fait, dans le jeu, on pouvait straffer, mais c'est un vieux à la TPS, et du coup, t'as l'impression que le corps, il va d'un côté, le haut du corps, et alors que le bassin part de l'autre. C'est très rigolo, mais Siphon Filter, excellent jeu aussi.
Alors, j'ai relancé le 1, hein, depuis qu'il est.
Oui, ouais, mais bon.
Et c'est pour ça que c'est dur. Des fois, il faut laisser les souvenirs là où ils sont.
Ouais, mais c'est PS1, mon gars, c'est normal que c'est vieilli.
Ouais, j'ai relancé Menace Fantôme, aussi disponible. Alors en HD guillemets, c'est une réhabilitation viteuf. C'était très dur, j'ai pas pu faire
et
le premier
pour
niveau.
Que toi tu dis ça, le roi du retro gaming.
Et Siphon Filter, pareil. Hein, je crois que j'ai pas fini la première mission.
Mais non, en plus t'avais la caméra, c'était avec les gâchettes. Là, c'est pas encore le double stick.
Ouais, c'était dur, mais c'était dur.
Les jeux 3D avant double stick, c'est chaud quand même.
C'était chaud. Voilà pour ce top 3 des jeux qu'il ne faut pas juger à leur jaquette. N'hésitez pas à nous balancer. Là, je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a des exemples.
Alors attention. La jaquette moche, mais il faut que le jeu soit bien.
Eh ouais.
Parce que des jaquettes moches pour des jeux nuls, ça, il y en a.
Ça, il y en a masse. Faut vraiment, comme l'expression hein, du livre, on ne juge pas un livre à sa jaquette. N'hésitez pas à nous balancer d'autres idées de pro, et voilà. Et voilà.
Désire-toi maintenant, le mec, il a fini son émission, ça y est, là. J'éteins la lumière après, comment ça se passe?
Ça, c'est pas une transition de qualité. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais là, on est, c'est le fromage.
On a bien bouffé.
On a bien mangé. On se met en arrière, là, comme ça.
Ça va aller vite, vous inquiétez pas.
Mais non, on est bien, justement. Eh, c'est là que ça discute. En fin de repas.
Fromage, bon, un peu plus de la gueule, du coup, mais.
Est-ce que la Switch 2 va plus de la gueule?
J'espère pas non plus. Donc voilà, je pense qu'on y est, 2024. Ça fait combien de temps qu'on prophétise l'arrivée d'une Switch 2? Bien longtemps.
3 ans au moins.
Là, il semble qu'on y arrive. Voilà, ça sera.
Ça fait 2-3 ans qu'on dit ça aussi.
Est-ce que ça sera début d'année, fin d'année? On verra. On va en parler. En tout cas, voilà, après 7 années de bons et loués services, la Switch va tirer sa révérence. Alors là, on va parler de la Switch 2 par rapport à ce qu'on en attendrait logiquement, par rapport aux rumeurs qu'il y a eu, qui sont liées aux chaînes de production et tout. Mais essayer de faire un portrait robot de ce qu'on peut imaginer, mais sans tomber dans le côté wishlist.
Oui.
Voilà, quoi. Donc, on va commencer avec le concept de la machine. Là, je pense sans aucun doute, on peut s'imaginer une machine dans la même continuité, donc il y a la même philosophie hybride hein, là-dessus. On l'a dit aussi dans le Red Alert 118 que le modèle hybride, maintenant, c'était devenu vraiment quelque chose qui fonctionnait. On a vu beaucoup de constructeurs qui allaient là-dessus, notamment Steam avec sa Steam Deck et tout. Là, je pense que voilà, on peut s'attendre à la fin du gimmick. C'est vrai que d'habitude Nintendo va associer une console à une nouvelle idée, et là, je pense que ça serait risqué tout bêtement de pas prolonger le concept de la Switch qui continue à se vendre. Là, je pense voilà, on arrête l'innovation, enfin, on arrête d'aller chercher le gimmick particulier, on reste sur la même chose quoi.
C'est possible, mais il y aura peut-être un gimmick en plus. C'est-à-dire que ce gimmick de la Switch va être conservé, mais peut-être qu'il y aura un truc en plus. Ça serait vraiment...
C'est vrai que par un peu fierté, ils pourraient se dire oh, on veut pas faire exactement la même chose, mais bon.
Il y a toujours eu au moins un petit truc.
Ouais, mais comme je dis, tu vois, est-ce que ça sera un échec qui tente pas quelque chose, ou au contraire, de la maturité en disant, ce concept, il est là, il fonctionne, il plaît, on reste là-dessus, qu'on va pas se risquer de se foutre...
C'est vrai. Mais les innovations chez Nintendo, c'est toujours un petit pas vers des plus grandes révolutions qu'on voit pas quand on est face au projet. On n'a pas la big picture, et eux, Nintendo, console par console, à chaque fois, ils mettent ils avancent leur pion avec, par exemple, la Wii U qui a été un échec, mais t'avais quand même le côté asynchrone, dissocier l'écran, le truc. Ça a été un échec, mais ils ont commencé à réfléchir la Switch petit à petit. Est-ce que là, ils vont faire la Switch 2 avec un truc en plus? Nous, on n'y verra que du feu. On fera, c'est quoi ce truc éclaté? Et en fait, dans 6 ans.
C'est vrai que ça peut porter ses fruits plus tard, ouais. Du coup, même philosophie, même nom, en fait. Là, je pense qu'on est aussi d'accord. Alors, Switch 2, Super Switch. Enfin, en tout cas, ils garderont le nom de la Switch, là aussi. Je pense que c'est plutôt évident.
Ouais, mais là, moi, je trouverais ça aberrant qu'ils fassent pas Switch 2. Mais au fond de moi, j'y crois pas.
Nintendo, on sait que...
Et ils
ont fait aberrant, déjà.
Ouais, mais je sais pas...
Après, la jurisprudence Wii U, là, qui va jouer aussi, que il faut parfois être clair, hein, pour montrer juste une évolution. Alors, c'est vrai que Super Switch, ça serait un peu le petit twist Nintendo.
Ouais.
Mais toi, tu mises sur quoi, toi?
Switch 2. Moi, depuis le début, je suis sur Switch 2, parce que je trouve que ça serait une erreur de faire autre chose, vu le succès et l'intériorité de la console.
Après, l'itération, c'est Sony, quoi. Donc, Nintendo, je sais pas s'ils ont envie de faire pareil que Sony.
C'est vrai, Microsoft aussi sont pas dans ce délire, ils sont plus dans la déclinaison, mais que ça soit, en tout cas pour l'exemple de Microsoft, ça a pas toujours été très clair non plus, et pour ce qui est de Nintendo non plus. Après, c'est pas dire que Sony ils ont la bonne solution, Apple et tout, ils se prennent pas la tête. T'as l'iPhone 1, 2, 3, 4, 5, aujourd'hui on est au 14, au 15, je sais même plus.
Et quand ils ont essayé de changer, justement, personne n'a rien compris avec les versions XD, X machin et tout.
Des fois, il faut faire un peu plus simple, quoi.
En tout cas, là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Niveau technologie, alors là aussi, on va pas faire des prédictions hasardeuses, mais on sait qu'en travaillant avec Nvidia, le côté DLSS, l'affichage 4K sur télé pourrait être visé. Portable, 720p, 1080, ça, je pense qu'on s'en fiche un petit peu, ça reste sur un petit écran. Mais voilà, il y avait des rumeurs comme quoi les specs techniques seraient plutôt lors d'une PS4. Alors on peut dire, bon, ça reste la génération d'avant. Mais bon, PS4, rappelons-nous, hein, Last of Us 2 est sorti sur PS4, Horizon 2 est sorti sur PS4, Uncharted 4 est sorti sur PS4. C'est quand même un rendu, aujourd'hui, comme on dit, qui vieillit plus tellement, quoi.
Ouais, non, franchement, ça, je verrais pas d'autre alternative à ça.
En tout cas, est-ce que ça serait assez puissant pour permettre d'avoir des développements communs sur PS5, Xbox Series et Switch 2? Est-ce que ça, tu penses, c'est un indispensable pour se remettre un petit peu dans le marché actuel? Ou est-ce qu'ils vont garder ce côté vraiment un peu dissocié d'avoir leur parc, leur jeu, leur...
Je sais pas. Ça fait tellement longtemps, entre guillemets, que Nintendo a fait une croix sur les tiers, que maintenant, ils savent qu'ils peuvent, alors, survivre tout seuls sur les jeux first party. Et ils savent que les tiers, que ça soit Capcom, Square Enix et tout, quand ils veulent faire une console Nintendo, un jeu pour Nintendo, ils feront un développement spécifique pour eux. Aller dans ce sens pour les charmer en leur disant vous inquiétez pas, maintenant on est sur une structure qui est plus solide et donc il va y avoir des développements conjoints, il y aura tout le temps un delta avec les specs, je pense, de la PS5 et de la Series X. Donc
après, c'est le succès de la machine qui va aussi dicter le truc, parce qu'on voit sur Switch, ils ont fait rentrer certes au forceps, mais du Witcher 3, du Doom Eternal, enfin ce genre de choses
avec le cloud.
On voit qu'il y a aussi la volonté des éditeurs d'aller sur les consoles qui fonctionnent, donc
oui, bien sûr. Tu vas pas cracher sur un parc installé aussi énorme et sur un public aussi grand pour faire des ventes, mais je sais pas. Ça, vraiment, je crois pas trop.
Niveau écran, là, on parle sur un 8 pouces LCD, donc la taille du PlayStation Portal. Je crois que tu nous en parleras du PlayStation Portal
un séjour.
Et là, c'est vraiment des analyses de Bloomberg, hein, qui ont interrogé des gens qui analysent les chaînes de production. Donc là, c'est qu'il y a des commandes d'écran qui ont été faites auprès de Sharp, donc ça semble plutôt safe.
Alors, je l'ai pas eu en main, la Portal, mais c'est costaud quand même pour la Switch.
C'est plus grand que la Switch et que celui de la Switch OLED, en fait. C'est vraiment la taille au-dessus, quoi, 8 pouces. Pas de version OLED a priori pour l'instant. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te chagrine ou pas du tout?
Alors, je vais pas faire le mec les noirs profonds, tout ça, mais c'est toujours pareil, Nintendo, ils ont des décisions rationnelles, on va dire, sur comment produire beaucoup pour moins cher. Je leur fais confiance s'ils estiment que c'est pas suffisant. Après, tu vois, la Vita, ça commence à faire, tu vois.
C'est vrai que même Sony, sur la Portal, est allé sur du LCD, mais pas sur de l'OLED, alors que Sony, justement, tu l'as dit, dès la Vita, ils étaient sur de l'OLED. Là, ouais. C'est pour des raisons de coût, tout bêtement. Ouais. Tu peux pas vendre ta console aussi cher. Après, bon, c'est vrai que déjà, nous, on n'est pas forcément les consommateurs qui utilisent le plus la console en mode portable.
Clairement.
Et après, bon, voilà, le LCD. Enfin, nous, on a des Switch première gen, hein, Day One, acheté Day One tous les deux.
Ouais.
Voilà, on fait avec.
Quoi, on fait avec parce qu'elle est sur le dock. Donc.
Après, est-ce qu'il y aura pas une version OLED, qui sortira plus tard. Ça paraît presque acquis. Oui. Mmh. Voire peut-être en même temps, on en reviendra quand on parlera de des maths ou pas, potentiellement, quoi. Niveau autonomie, là aussi, alors, il nous parle d'une autonomie renforcée qui serait de l'ordre de celle de la nouvelle version des Switch qu'il y a eu. Alors, c'était juste une variation du numéro de modèle, mais celles qui sont sorties après les nôtres, qui avaient une autonomie apparemment de 6-8 heures. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est pas vraiment un débat. Est-ce que t'entends beaucoup de gens se plaindre de l'autonomie, notamment pour les Steam Deck, toutes ces machines? Alors, les Steam Deck, sur un jeu AAA, on parle d'une autonomie d'une heure, une heure et demie, a priori. Okay. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment un débat parce que les consoles portables, c'est devenu des consoles de salon nomades, en fait.
Ouais.
Les mecs, ils les prennent partout à droite à gauche. Alors, ça arrive évidemment ponctuellement, mais j'ai l'impression qu'on y joue plus chez nous dans son canap. Et limite qu'on a la prise de courant à côté, quoi.
Bah, pour ce qui est de notre consommation, c'est clair. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et j'entends pas trop spécialement de gens se plaindre.
Et c'est vrai que la Switch à son annonce, c'était, ah, de quoi, 3 heures d'autonomie, c'est un scandale et tout. Et en fait, finalement, j'ai jamais vu, ça a jamais été, semble-t-il, un problème, quoi.
Ça doit dépendre des habitudes. Peut-être, il y a des gens qui sont à fond sur le côté portatif et ça les chagrine.
Niveau manette, bon, je pense que la correction du Joy-Con Rift, c'est au moins obligatoire. Je pense que c'est peut-être le truc le plus important.
Meilleure blague, si le garde.
Faut arrêter les conneries, là, franchement, pour le coup, s'abuser. Et surtout, alors là, c'est, dis-moi si t'es d'accord, mais bien, mettez des gâchettes analogiques, quoi.
C'est clair.
Il y en a, enfin, sur console
la GameCube, ça date.
À part la GameCube et qui avait pour le coup des super gâchettes analogiques. Pourquoi ils refusent de mettre des gâchettes analogiques?
Ouais, c'est juste dommage parce que ça en fait soustrait une possibilité aussi aux jeux Nintendo de pouvoir en bénéficier. C'est dommage.
Ouais, et puis enfin, je trouve que depuis 5 ans, les gâchettes c'est devenu les boutons presque primordiaux sur tous les jeux.
C'est clair.
Avant, tu t'en servais que ponctuellement. Aujourd'hui, les gâchettes, que ce soit pour les jeux de voiture, pour les TPS, FPS, pour viser ou pour même les jeux d'action où tu se sers des gâchettes, c'est devenu les boutons quasiment avec les deux sticks où tu touches qu'à ça, quoi. Donc il faut là-dessus aller dans cette direction, quoi.
C'est
je
clair.
Pense. Niveau rétrocompatibilité, alors ça c'est un débat vu comme le monde évidemment, mais il faut savoir que c'est pas quelque chose qui est acquis. On se rappelle du passage de la PS2 à la PS3 où les premières versions de la PS3 avaient une rétrocompatibilité PS2, mais pas les versions d'après, parce que voilà, donc toi t'as vu la version vanilla à l'époque que tu gardes, tu la chéris.
C'est ça.
Version passage PS3, PS4, pas de rétrocompatibilité. Passage Wii à Wii U, rétrocompatibilité. Donc on voit, la PS4 a marché malgré l'absence de rétrocompatibilité.
Oui.
La Wii U n'a pas marché alors qu'elle avait la rétrocompatibilité.
Oui.
Donc on voit que niveau vente, niveau public, c'est finalement pas aussi, peut-être pas un débat. C'est peut-être plus pour les gens comme nous un peu qui vont bien. Mais
Ouais, peut-être l'usage familial. En plus là, il y a eu des déclats comme quoi la Switch a fonctionné beaucoup et on le savait sur en fait le multi
foyer, dit, ouais.
Multi foyer, enfin le
t'as quand plusieurs machines t'as dans plusieurs un même foyer. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que si t'as 2-3 gamins et puis ils ont tous plusieurs jeux et puis ils se le prêtent et tout, tu vas acheter une nouvelle Switch, t'as peut-être envie de garder la ludothèque, mais aussi pour tes gosses. Donc, c'est peut-être possible que ça soit important pour ça.
Ouais, et c'est pour cette raison que il y avait des rumeurs d'une Switch avec 100% des maths, mais pour moi c'est impensable que Nintendo sorte une version de la machine sans port cartouche, quel qu'il soit,
ouais.
Parce que tu l'as dit, le public enfant, les cartouches, c'est plus facile à manipuler, c'est aussi bah voilà, t'as tes jeux, ça doit pas être compliqué à jouer. Mais est-ce que justement on pourra imaginer deux machines à la sortie comme on a eu pour les PS5 et Xbox, une version Switch un peu, je caricaturais, mais un peu pour les adultes, qui serait plus cher avec un OLED et avec 100% des maths. Est-ce que toi, t'irais plutôt là-dessus ou est-ce que...
Oui. Ouais. Alors moi, j'irais plutôt là-dessus sur cette version, mais je pense que ça serait bizarre parce que c'est pas Nintendo de faire ça. Le côté sortir plusieurs versions de la console en même temps, pour le Day One, c'est bizarre. Eux, ils ont toujours sorti des itérations plusieurs années après, et en fait, ils vont agrandir la famille de la console. Donc là, la famille Switch, t'en as maintenant, je sais pas combien. Mais Day One, ça fait très... constructeur, tu sais, high-tech.
Ouais.
Et Sony, je trouve que là, Microsoft, ils s'en sont pas bouffés les doigts, mais ils se sont perdus à un moment avec toutes leurs versions. Là, Sony, ils essayent de faire machine arrière, parce qu'avec la nouvelle PlayStation 5, avec le port mécanique, enfin, le disque mécanique qui est en plus, c'est en fait pour dire, non, mais en fait, il y a qu'une seule version, et la version mécanique, c'est vous qui, c'est un appendice. Je sais pas si le sens de l'histoire, ça va vers là, tu vois.
Ouais, mais justement, dans un monde où le démat, enfin, même Nintendo, ils ont les chiffres, même s'ils les communiquent pas, des ventes et tout, je pense qu'ils ont constaté que c'est en train de basculer, voire ça a basculé, peut-être moins chez eux parce qu'ils ont un public familial, mais que ça commence à basculer. tu sais que tu gagnes plus de thunes quand tu fais en version des maths.
Bien sûr.
Nintendo aime bien la thune aussi. Tu vois, est-ce que maintenant, je suis d'accord avec toi sur le côté philosophique, c'est pas du Nintendo, mais est-ce qu'il n'y a pas des faits qui vont leur faire dire que, bah, finalement, bon, faut quand même arrêter les conneries, quoi.
Ce qui est possible, moi je mets 10 balles, c'est sur le fait que la Switch 2 ait un port cartouche uniquement pour la Switch 1. Et tous les jeux Switch 2, eux, c'est des maths. Donc en fait, t'aurais un apport physique pour la rétrocompatibilité, mais tout ce qui est le futur de Nintendo, ça serait des maths. Donc là, t'as un petit peu, tu peux clouer le bec à tout le monde, t'sais. C'est genre, mais non, mais vous inquiétez pas, vos jeux, vous pouvez y jouer, et regardez le physique, on y croit encore, parce que tout ce que vous avez en physique, ben, on vous laisse le droit, ben, en fait, de l'utiliser. En revanche, l'avenir, mais tu vois, Nintendo, même s'ils sont un petit peu un pied dans le passé, un pied dans le futur, parce que ils utilisent le mieux de toutes les époques, ah, faut pas déconner, quoi. Comme tu dis, l'argent.
Ouais, mais là, du coup, tu fermerais la porte un peu à de la cross-gen, quoi, pour genre que les jeux de la dernière année de la Switch puissent être aussi portés sur la Switch 2.
Ben pourquoi ? Parce que ben non, ça marche.
Ben, si tu l'achètes sur ta Switch, par exemple, en version cartouche, et que est-ce que tu pourras l'utiliser
Ben si je l'achète sur ma Switch en version cartouche, je la mets dans ma Switch 2.
Le port cartouche de ta Switch, c'est vrai. Ouais. Bien vu, tu es bon en marketing. Alors concernant le line-up, là aussi j'ai dit on va pas faire un listing de jeux, mais je pense qu'au moins ce qu'on peut s'attendre, il y a deux cas de figure, il me semble assez indissociable de ce launch potentiel, c'est le Mario Kart 9. On sait que le jeu, c'est certain, il est en embuscade. Le Mario Kart 8 originel a 10 ans, ça a été un carton sans nom. La version Switch évidemment a 3 ans de moins, mais Mario Kart 9, je pense, pour assurer ta première année de lancement, ça paraît inévitable.
Bon, ça serait génial et ça va se vendre par 200 millions de palettes. On a toujours pensé, on s'est dit, mais Mario Kart, faut arrêter, c'est Nintendo Kart maintenant, mais le nom, il est trop fort, il est trop puissant, jamais ils vont le sous-titrer comme ça. Mais la philosophie de mettre tous les héros Nintendo et ne pas se contenter de Mario, ils ont commencé avec Animal Crossing, avec...
Ouais, avec les DLC, avec Splatoon aussi.
Avec Splatoon. Donc, je pense que ça pourrait être une belle nouvelle vague si, là, ils font un Mario Kart Nintendo au global, quoi.
Et puis Metroid Prime 4, hein, on sait que le jeu a été reboot, machin, donc là ça fait, je crois, 4 ans ou 5 ans, donc on se dit que le jeu il est quand même censé pas être loin de sa fin. Est-ce que là aussi c'est pas ta cartouche idéale pour t'assurer un launch
joli, ta cartouche. Ouais, lui il aura traversé ce jeu, la génération Switch entière, on l'aura attendu. T'imagines que Bayonetta 3, bientôt il est vieux, tu vois, alors qu'ils ont été annoncés en même temps. Mais incroyable, non, il faut qu'il sorte ce jeu. Après, est-ce que c'est inquiétant ou pas? La Metroid reprend en force, hein, parce que le Dread c'est le plus vendu de l'ensemble de la saga. Donc, toutes les nouvelles itérations de grandes sagas sortent sur Switch, deviennent l'épisode le plus vendu. Donc oui, chaud, bien sûr.
Alors, une première année avec Mario Kart 9 et Metroid Prime 4, ça a quand même de la gueule, quoi.
Après, il faut un gros Mario 3D, parce que là on a eu Wonder, mais on attend tous la suite de Odyssey, qui pourrait être énormissime. Et c'était l'époque, je crois, sur Switch, il y avait le Mario qui était arrivé très très vite.
Ouais, c'était au bout de 6 mois, je crois, sorti en mars, la console, et Mario Odyssey en octobre.
Et donc, en première année, on a eu Breath of the Wild et Mario Odyssey, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'était une cadence de jeu mensuelle qui a été incroyable. Ben ouais, il faudrait refaire ça. Ouais.
Niveau date de sortie, là aussi, on peut tabler potentiellement annonce en jeu, sortie en septembre, tu vois, pour le côté juste pas très logique, mais surtout qu'il n'y a pas de GTA en fait en fin d'année, comme on aurait pu le craindre, comme Nintendo aurait pu le penser. Est-ce que c'est pas du coup quasiment sûr que ça sortira plutôt en fin d'année, quoi? Bah, la porte est ouverte.
Noël. Bah, c'est Noël. Mais c'est Noël. Pour le marché, que ça soit le jeu vidéo, le livre, tout ce que vous voulez, le manga, Noël, c'est la plus grande période de l'année. Et c'est pour ça qu'il y a des bouchons en fin d'année, parce que ça se vend. Le ratio, il est incroyable. Et vendre une machine, c'est le cadeau parfait. La nouvelle Switch, ils peuvent pas rater ça. Après, si encore, on va dire que la Switch est décalée d'un an, et si GTA, d'après les rumeurs et les petits indices, ça partirait sur avril, bah, il pourrait partir sur Noël encore d'après 2025.
Ouais, en tout cas, on est d'accord que GTA, même si ça paraît complètement éloigné, que c'est pas le même public, c'est sur d'autres consoles, sortir une console en même temps que GTA 6, c'est pas une bonne idée, quoi.
Non, c'est pas une bonne idée. Et surtout, si c'est décalé à 2025, s'ils se la jouent Switch, genre année fiscale, tout ça, c'est sur mars. Si GTA, c'est avril, si imaginons que c'est ça, c'est pas bon non plus. Donc oui, enfin, moi, je mise sur ce Noël, ouais.
En tout cas, là aussi, des rumeurs selon Insider Gaming, les chaînes de production, bah, vu les commandes de composantes et tout, ça, Nintendo voudrait produire au moins 10 millions de machines sur la première année pour éviter le côté rupture qu'ont connu les PS5 et Xbox Series.
Ouais.
Niveau prix, là aussi, on va piffer un peu, mais je pense que 400 balles, c'est devenu le minimum aujourd'hui. Ça va faire grincer des dents, évidemment, mais déjà, t'as une console qui est plus technologiquement plus évoluée, tout ça. L'inflation, tout ça, tout a augmenté. On reste quand même 100 balles de moins que les consoles next-gen. Je pense qu'ils seraient plutôt sur ce créneau. Enfin, 300 balles, ça me paraît compliqué, quoi.
Ouais. 399, le bon prix, Chette. Le prix psychologique, c'est sûr. Je pense aussi qu'on ça partirait là-dessus.
Juste pour terminer, un point sur la Switch actuelle, hein, elle continue à se vendre, on l'a vu. Pour moi, je lui prédis un peu une fin de carrière à la PS2. Alors, faut savoir que la PS2, qui a 155 millions de consoles, qui est la console la plus vendue, il y a quasiment un tiers de ses ventes, donc quasiment 50 millions, qui ont été faites après la sortie de la PS3. Donc où c'était devenu la console un peu voilà moins chère, plus pour un public enfantin. Elle a connu une seconde vie, je pense, assez exceptionnelle, et comme rarement dans le cadre des consoles de jeux vidéo. Moi, j'imaginerais bien la Switch faire ça, tu vois, pour le côté, elle a encore son potentiel, on voit qu'elle est toujours séduisante dans son concept, mais pour une baisse de prix, je sais pas, 100-150 boules. Alors, aller chercher le record Nintendo, je sais pas, c'est quelque chose qui les intéresse spécialement.
Je pense qu'ils s'en foutent. Mais oui, avec une baisse de prix, je pense que c'est jouable. Hein.
Vu que t'auras, tu vois, une Switch 2 qui sera un peu l'équivalente à voilà l'entrée de gamme pour les plus jeunes, peut-être moins puissante à 100-150 balles, et la version plus puissante plus chère.
Ils ont fait ça précédemment, alors pas avec la Wii U parce qu'ils s'en vendaient plus, mais la Wii, il y a eu la Wii CD, je sais plus comment elle s'appelait.
La Wii, ouais, toute rouge là.
Toute rouge, elle était super mignonne.
Elle était super mignonne.
Ouais, mais je dis Wii CD, moi.
Pas, je sais pas si c'était trop vendu en fait.
Je sais pas non plus, mais ça a été un mouvement pour un petit peu impulser.
Ouais, c'est le problème de la Wii en fait, c'est qu'elle s'est très bien vendue. Mais du moment où elle a arrêté de se vendre, ça a été une immédiate et dégringolade, quoi.
Ouais, c'était un stop net.
C'était la Wii, je sais plus.
Bref. Ouais, dites-nous. Mais elle était sympa. Moi, j'aimais bien le packaging et tout. Je la trouvais très, très mignonne. Elle avait un côté biseauté, parce que la Wii l'avait aussi, mais moi, j'avais bien, bien trouvé stylé. Mais pour revenir à ta question, ouais, la Switch, ça pourrait être une nouvelle dynamique intéressante de baisser son prix. De toute façon, ils vont la vendre tant qu'ils pourront la vendre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense qu'elle a vraiment de belles années devant elle. Et pourquoi pas des succès. Alors là, on parle toujours des trois continents, hein. Enfin, l'Occident qui comprend l'Europe, les États-Unis et le Japon. Mais dans d'autres pays émergents ou qui ont maintenant une consommation de vidéo qui est assez importante, elle a encore des belles années. Hein.
C'est vrai.
Donc, est-ce qu'elle va aller chercher le record ?
À voir, en tout cas, elle n'en est pas très loin. Je crois qu'elle est à 20 millions à peu près du record. Donc,
C'est 100, ouais. 150 ?
155 millions, ouais, ouais. Donc voilà, mais pour cette Switch 2, voilà, dernier petit exercice avant la sortie, mais on verra si l'avenir nous donne raison. En tout cas, il est temps. Nous, on l'attend, je pense, impatiemment.
Oui, il y en a marre. Là, il faudrait vraiment que ça sorte. Ou au moins une annonce. Maintenant, l'annonce, ça sera vraiment pas au dernier moment, mais comme d'hab.
6 mois avant, max, quoi.
Ouais, max. Tu peux pas réfréner les ventes. Il y a encore des gens qui achètent des Switch en masse aujourd'hui. Si tu annonces officiellement et en grande pompe qu'il y a la succès, la succession, la succès, tu dis pas successrice, ça n'existe pas.
Successeur.
La nouvelle Switch, la Switch 2, qui arrive après. Bah, tu vas un petit peu mettre un frein. Il y a des gens qui vont dire, bah, attendons, c'est pareil pour Sony ou qui a, est-ce que la PS5 Pro arrive? Oui, non, j'en sais pas. Donc, du coup.
Ouais, de mémoire, la Switch était l'annonce, le premier trailer de 3 minutes, genre en octobre, une conf en janvier avec le line-up, les jeux et tout, et sorti en mars.
Donc, ouais.
Donc, ramassé sur 5 mois. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose d'équivalent.
Carrément. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous attendez la Switch fortement, cette Switch 2, et qu'est-ce que vous attendez de la console, hein, les specs, les jeux, quelle tête elle va avoir et à quel prix. N'hésitez pas à nous faire des retours, parce que vous en faites beaucoup des retours, et on vous remercie vraiment chaleureusement.
Merci, carrément.
Merci pour toutes ces notes sur les plateformes de podcast.
Ouais.
Et notamment sur donc l'Apple Store, où là, nous, on a notre petit objectif à 200 notes. Alors, ceux qui mettent des coms, et vous mettez des coms, c'est trop cool, mais juste la petite note en bas, quand vous allez sur édition, vous allez tout en bas, et vous pouvez noter sur 5, voilà. Et ça aide vachement.
Voilà.
Sur la...
On a vu que des 5 étoiles, évidemment, donc ouais, mais là, ça a bien augmenté, comme on a dit, ça commente tout le temps, on lit vos messages, ça nous fait super plaisir. Donc, let's go.
Merci à tous pour votre fidélité, hein. Vous êtes de plus en plus, ça nous fait ultra plaisir. Donc, comme vous le savez, on a une grosse production de podcasts, mais on a aussi une grosse production de livres, parce que voilà. Nous sommes un éditeur.
Comme ne l'indique pas le décor aujourd'hui, oui, hein, on produit des ouvrages sur la pop culture, il y a forcément un sujet qui pourra vous intéresser, hein, que ce soit en jeu vidéo ou autre. Hein.
Par exemple, aujourd'hui, si vous aimez bien les Persona, on a un bouquin sur Persona qui revient sur l'entièreté de la série, sauf Persona 5, parce qu'on a un ouvrage dédié à P5, et on a même un ouvrage sur SMT, Shin Megami Tensei, qui est actuellement, à 50%, on est en promo.
En promotion, les soldes, dépêchez-vous, parce que ça termine dans quelques jours. Mm-hmm. Donc, voilà, ne tardez pas, c'est quand même, ça fait des bouquins à quoi? 15 balles, enfin, 12 balles même, c'est donné.
Gratuit, cousin.
C'est donné.
Quasi gratuit, cousin. Je me tourne vers toi, la question, hein, voilà, c'est que va-t-il se passer la semaine prochaine dans Red Alert?
Bah, écoute, on va voir, on a dit, je vais tester ce Silent Hill, hein, voir ce que ça va donner. Est-ce que ça mériterait une chronique? J'espère. Est-ce que ce sera bien? J'espère aussi. Donc, on en reparlera, je pense, la semaine prochaine.
Silent Hill, short message.
Short message, ouais.
Et pour ma part, donc là, moi, je vais commencer Grand Blue Fantasy. Donc, laissez-moi temporiser. Là, je suis sur des jeux qui sont un peu longs. Donc,
ça y est, c'est le moment.
C'est le moment. Je vais vous parler de Star Ocean 2 et Super Mario RPG. Donc encore, on est dans le JRPG, on est bien, on reste là où on se sent bien. Des jeux que j'ai fait pendant les vacances, et je les ai regroupés pour parler justement de ce phénomène de remaster, tout ça. Est-ce que c'est bien, il y en a trop, comment ils sont faits, et finalement, est-ce que c'est cool. Et ça me permet voilà de jouer à Grandblue, parce que je peux pas faire ça pour la semaine prochaine.
C'est beau.
Voilà, voilà. Écoutez, ben, je vous remercie encore. Une belle émission, j'espère. En tout cas, une émission un peu plus longue que d'habitude. Votre footing, on vous a poussé.
Là, voilà,
vous
êtes... on pense à votre santé.
Là, voilà, vous êtes sur 13 km. Là, voilà. Ça fait un petit peu plaisir. Et on vous dit merci et à la semaine prochaine.
Bye bye.